prêt? Bon, allez, c'est l'heure du direct. Merci énormément, Vincent Miro, d'être avec nous aujourd'hui sur le studio de Swissbox Conversation, qui est un média un peu alternatif, qui prend le temps, un format long, qui prend le temps de creuser et d'aller au bout des choses. Et tu nous sembles être une personne absolument fascinante dont il fallait prendre le temps d'écouter. Alors, moi, j'ai un petit peu regardé tes travaux et puis je vois que tu t'éloignes un peu de où tu prends ce mot de collapsologie ou d'effondrement avec un peu des pincettes. Et puis, quand les gens te posent la question « Est-ce que tu es un collapsologue ?», tu réponds alors non. Et j'aime toujours commencer les podcasts par un petit peu de définition. Ouais. Et quelle est ta définition, pardon, à toi de l'effondrement?
Cette simple question demande déjà un développement
assez phénoménal
qui pourrait prendre une demi-heure, trois quarts d'heure.
Oui.
Alors, avant de définir l'effondrement comme je le conçois moi, effectivement, je me suis distingué de la collapsologie, non pas tant pour le mot qui ne me dérange pas. Enfin, voilà, j'invente aussi des mots, ça me plaît de jouer avec le lexique, donc c'est pas ça qui me dérange en soi. Par ailleurs, il faut être reconnaissant et loyal vis-à-vis du travail de Pablo Servigne, Raphaël Gauthier et Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, qui depuis 2015 ont beaucoup œuvré et même principalement œuvré en francophonie pour faire connaître le sujet de l'effondrement, du coup.
C'est clair.
Donc vraiment, ils ont fait un travail remarquable dont on pourra justement discuter du prix ou en tout cas des formes de d'écarts qui ont été pris par rapport à la méthode ou des associations qui sont faites avec le thème de l'effondrement qu'on peut juger critiquable, ce qui est mon cas, voilà. Mais en tout cas, le travail d'accès au public de ce sujet-là est remarquable, il n'y a pas de doute là-dessus. Je me suis donc, moi, distingué de la collapsologie, non pas du sujet que porte la collapsologie, mais d'autres choses que les auteurs historiques autour de la collapsologie ont amené conceptuellement, moralement, voire éventuellement spirituellement, qui sont en soi des choses respectables et qui leur appartiennent, avec lesquelles je n'ai aucun problème, mais qu'il me semble, en tout cas à moi, très délicat d'associer directement à ce qui est censé être une étude scientifique du risque d'effondrement. Je suis peut-être un petit peu rigide sur certains paramètres éthiques, mais je crois qu'il faut être extrêmement précautionneux quand on parle d'un sujet aussi grave, dont on estime les conséquences comme étant extrêmement dramatiques sur quantité de paramètres, et que sur un sujet d'ailleurs universel, intrinsèquement universel, c'est-à-dire qui concerne tous les humains, eh bien, traiter ce sujet-là qui est universel avec un prisme qui ne l'est pas, pour résumer, pour résumer, me semble être très discutable sur le plan méthodologique et éthique. Voilà, donc vraiment, mon discours est à la fois respectueux du travail qui a été fait et en même temps critique des associations qui sont faites avec le sujet de l'effondrement.
Parce que c'était peut-être une vulgarisation, et puis toi, tu prends une position plus scientifique où tu dis que chaque chose qui est mise en avant ou expliquée doit être extrêmement précise et pesée avant d'entrer dans le débat public.
Alors, pour le travail scientifique qu'ont fait les trois auteurs, pour l'essentiel, le livre historique « Comment tout peut s'effondrer » est un livre assez rigoureux. Enfin, je n'ai pas de problème avec ce livre-là. Je n'ai pas de problème non plus avec la vulgarisation. Qui n'est pas c'est tout à fait honorable de faire de la vulgarisation. Il faut rendre accessibles les discours complexes. Donc sur cette partie du travail, je n'ai pas de critique à faire. Donc c'est pas une question de vulgarisation, c'est vraiment une question d'association, on va dire, de discours un peu confus entre ce qui est de l'ordre de la science et ce qui est de l'ordre de l'idéologie ou de l'opinion personnelle. Et cette confusion qui est par ailleurs assumée, puisque j'en ai discuté avec Pablo Servigne en particulier, cet amalgame ou cette confusion qui est assumée dans le sens où Pablo considère que c'est une façon de rendre le sujet plus accessible et appropriable, et cette façon-là me semble discutable. Voilà, c'est ça. Je crois qu'il reste très important dans un monde d'autant plus incertain, d'autant plus incompréhensible qu'il est incertain, de conserver des cadres d'interprétation du monde qui soient solides et qui ne mêlent pas, par exemple, les techniques de soins alternatives avec ce que c'est la médecine du fonctionnement de la biologie. Voilà, c'est un exemple. Et je sais que des rapprochements plutôt osés, voire hasardeux, sont faits au titre de la collapsologie, ou en tout cas au titre de la méthodologie défendue dans la définition même de la collapsologie, et ce type de rapprochement m'embarrasse.
Ok, je comprends. Quand on en parle justement avec à l'extérieur, avec un peu le quidam, les gens commencent à avoir intégré le fait que tout va s'effondrer, mais avec toujours cette perception que ça va arriver dans le futur. Or, il y a déjà des signes qui montrent que l'effondrement, si on l'appelle comme ça, si on le définit comme peut-être tu l'entends, il aurait déjà commencé. Est-ce que l'effondrement a déjà commencé ?
Je vais reprendre une définition que je donnerai plus tard la mienne, mais une définition qu'utilise Joseph Tainter de l'effondrement. L'effondrement des sociétés complexes, en fait, est la conséquence du fait que les sociétés complexes deviennent complexes pour résoudre des problèmes. Donc, si vous voulez, si on prend le contre-pied de cette définition, les sociétés deviennent complexes pour ne pas s'effondrer. Mmh. C'est-à-dire que toute société qui est exposée à la contrainte de la faim, à la contrainte des pathogènes ou aux contraintes guerrières, hein, pour reprendre les trois paramètres, les trois conditions essentielles de l'existence, toutes les sociétés qui sont soumises à des régulations, hein, par la faim, la maladie ou la guerre, doivent essayer de ne pas mourir, tout simplement. Et à chaque fois qu'elles essayent de résoudre un problème dans un domaine ou un autre, eh bien, elles ajoutent une couche de complexité à leur fonctionnement, que ce soit une complexité technique pour la médecine, agricole pour l'alimentation, ou technique tout simplement d'armement pour la défense. Et à chaque fois, eh bien, ces techniques sont plus coûteuses en énergie. Et donc, en résumé, éviter des effondrements, c'est devenir complexe, et c'est donc s'exposer in fine à un effondrement encore plus grand. Mais le processus, il faut bien le comprendre, une société devient complexe pour ne pas s'effondrer. Donc, si vous voulez, un effondrement, c'est le prix du fait qu'une société ne se soit pas déjà effondrée. Ça, c'est important. Et la deuxième chose, est-ce que les choses s'effondrent déjà ? Bien sûr, d'une part, du côté des humains, si je puis dire, avec des sociétés dont les terres agricoles sont déjà dramatiquement inexploitables. Enfin, certains pays aujourd'hui ont perdu leurs terres depuis 200 ans, donc c'est assez récent. Hein. Le nord de l'Afrique avait des terres tout à fait cultivables et fertiles il y a quelques décennies. Cependant, ce processus s'observe déjà en Mésopotamie il y a 2, 3, 4 000 ans. Donc en fait, le processus d'érosion des terres qui est intrinsèque à l'agriculture est quelque chose qui a déjà commencé il y a longtemps, et des civilisations entières se sont effondrées sur ce simple paramètre. Donc aujourd'hui encore, des sociétés sont en rupture pour leur fonctionnement interne, pour des raisons agricoles, chose que l'humanité connaît depuis très longtemps. Mmh. Donc aujourd'hui, il y a déjà des sociétés qui s'effondrent. On connaît aussi l'histoire récente du Venezuela avec... on va sans rentrer dans le détail de cette histoire-là qui est... Non, mais je ne la connais pas suffisamment d'une part. Et d'autre part, elle est extrêmement complexe. Oui. Le Venezuela est un pays qui vivait essentiellement à 95% des rentes du pétrole. Les variations de prix sur les marchés internationaux ont fortement impacté l'économie du pays. On imagine bien que des influences extérieures ont plus ou moins... aider ou pas aider le pouvoir à se maintenir, et le pays, pour une bonne partie, s'est effondré ou est en train de s'effondrer. 5 millions de personnes qui quittent le pays, c'est une conséquence massive d'un effondrement économique.
Mais imposé par l'impérialisme américain, par exemple. Alors, c'est un des facteurs.
C'est sur ces points-là que je ne peux pas me prononcer. Les historiens le feront dans longtemps. Il y a quantité de paramètres qui font que le pays est dans cet état-là, des paramètres alors, techniques, géologiques, financiers, de prix du pétrole à l'international, d'influence étrangère.
Donc il y a énormément de sanctions économiques qui sont imposées au Venezuela.
Oui, bien sûr. Mais ce pays est aussi tiraillé entre le traditionnel bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. C'est de la géopolitique.
On parlait de complexité tout à l'heure, là il y en a beaucoup.
Évidemment. Donc c'était juste à titre illustratif que je prenais le Venezuela. Donc, dans les populations humaines, il y a déjà des pays, pour des raisons diverses et variées, qui sont en cours d'effondrement ou en période de rupture.
Là, tu parles économiquement parlant.
Économiquement parlant, mais...
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Humainement aussi.
C'est-à-dire ?
Économiquement parlant, c'est assez simple. Hein. Que la nourriture, par exemple, augmente considérablement, le prix du pain augmente considérablement et rapidement. On sait maintenant que ça a été un des déclencheurs des printemps arabes, par exemple. Alors, pour parler d'autres paramètres systémiques et complexes, je crois qu'il n'y a plus beaucoup d'analystes maintenant qui rejettent l'hypothèse que la déstabilisation des pays d'Afrique du Nord après les années 2010 soit consécutive à à un étau qui est celui d'une baisse des rendements agricoles assez massive pour des raisons climatiques déjà. En fait, une sécheresse très prolongée sur presque 10 ans dans ces zones-là, qui a donc réduit les rendements agricoles, rendu ces pays plus dépendants de l'importation, évidemment. Le deuxième paramètre étant successivement dans ces pays-là, à peu près à la même période, le passage des pics pétroliers sur leur territoire, ce qui fait qu'ils ont de moins en moins de pétrole à vendre, donc de moins en moins de capacité à gérer leur propre économie, donc à pouvoir acheter de la nourriture sur les marchés extérieurs. Et le troisième paramètre est que le climat, lui encore, a influencé l'agriculture russe elle-même, ce qui a motivé les Russes à fermer ou à réduire fortement leurs exportations avec leurs pays, avec des pays qui étaient pourtant des alliés historiques ou des partenaires, ce qui, semble-t-il, selon la plupart des historiens ou des économistes qui étudient la question, aurait été un facteur déclenchant, enfin, cette situation complexe aurait participé à déclencher les révolutions arabes. Donc, on ne peut jamais isoler un paramètre et dire un effondrement, c'est économique, parce qu'il y a toute une chaîne de réponses derrière qui fait que les gens souffrent, se révoltent, donc on obtient des problèmes sociaux. Ensuite, on obtient des problèmes de déstabilisation du pouvoir. On sait que ces pays-là, pour certains d'entre eux, n'ont pas retrouvé, alors que les révoltes étaient contre le pouvoir, et elles étaient légitimes, ces révoltes, parce que les pouvoirs étaient autoritaires, étaient coercitifs, étaient corrompus, évidemment. Mais les révolutions, c'est on pourra en parler si vous voulez, mais les révolutions en soi, en fonction du contexte, ne sont pas intrinsèquement des solutions à des problèmes. On sait aujourd'hui que pour certains pays, la souveraineté, une part de leur souveraineté économique et politique a été perdue suite aux révolutions, parce que le pouvoir précédent étant déstabilisé, la structure même du pays est beaucoup plus facile à infiltrer par quelques sources de corruption que ce soit, ou sources de, on va dire, gestion par l'extérieur des paramètres internes du pays. Alors voilà, on sait que certains pays sont nettement plus corrompus qu'ils l'étaient auparavant, plus dépendants de l'étranger. Voilà, dans certains pays, les pays occidentaux n'hésitent pas à négocier les salaires selon leurs intérêts à eux, puisqu'il n'y a plus de pouvoir très fort en face. Donc bon, voilà, c'est les salariés eux-mêmes des pays, alors qu'ils s'étaient révoltés pour changer leurs conditions, se retrouvent dans des conditions moins bonnes. Et vous voyez que là, on a directement des aspects sociaux extrêmement graves. Bon, j'ai pas évoqué les problèmes d'infiltration des pouvoirs avec les pouvoirs des obédiences religieuses de plus en plus obscurantistes pour certains pays. Mais enfin, voilà, vous connaissez la situation dans ces contrées. Et donc, pour répondre à la question de l'effondrement économique, social, politique, en fait, on peut observer des réactions en chaîne qui finissent par toucher l'ensemble d'une population et qui pourraient... Autre chose qu'on questionnera pour l'avenir, est-ce que ces pays pourront retrouver une croissance ou de meilleures conditions de vie? Cette question est ouverte. Et elle est ouverte pour la plupart des pays aujourd'hui. Est-ce que si une rupture intervient, pour quelque raison que ce soit, hein, voilà, ingérence extérieure, révolte sociale, prix du pain, taxe sur le pétrole pour la France, comme on l'a vu ces derniers mois, on ne sait pas dans quelle mesure un pouvoir potentiellement momentanément déstabilisé ouvre sur un pouvoir moins coercitif, moins autoritaire que celui d'avant. C'est ça le contexte extrêmement délicat dans lequel on se trouve aujourd'hui pour des raisons plurifactorielles, économiques, pétrolières, agricoles, climatiques, etc.
On va essayer de creuser un peu plus tard. Si on regarde le passé, des effondrements sociétaux, il y en a déjà eu. J'imagine que tu as aussi étudié ça. Quels seraient un petit peu les cas écoles que tu pourrais, sur lesquels on pourrait revenir pour peut-être comprendre ou essayer de dessiner le début d'un pattern ou d'un processus qui se répéterait?
Alors, je fais une petite parenthèse. Vous m'avez demandé tout à l'heure quelles étaient les choses qui s'effondrent. Comment ?
Tu.
On se tutoie, très bien, pas de problème. Moi, je préfère aussi. Donc, tu m'as demandé tout à l'heure quelles étaient les choses qui s'effondrent. J'ai commencé par répondre concernant l'humain, mais le vivant s'effondre encore plus vite. Et d'autant plus vite que nous sommes angoissés de l'effondrement économique de nos sociétés, ce qui fait que nous exerçons une pression de plus en plus grande sur les écosystèmes. Bon, voilà, les chiffres sont connus. On a 67% de disparition d'insectes en 10 ans. Enfin, bon, c'est...
ça, c'est un chiffre, effectivement, qui a fait un peu...
À juste titre, il a choqué. Je vais vous faire part d'une anecdote toute personnelle. Il fait chaud aujourd'hui. Je suis venu de Lyon vous voir aujourd'hui. Et entre la gare et ici, j'ai entendu des oiseaux. Voilà. C'est quelque chose, moi j'ai une petite quarantaine, c'est quelque chose dont je sens déjà le changement depuis mon enfance. C'est-à-dire que sur toute une année, j'entends beaucoup moins d'oiseaux que je n'en entendais il y a 20, 20, 30 ans. Dessiner des patterns à partir de situations passées, c'est quelque chose justement qui est possible et qu'il faut faire pour essayer de comprendre l'actuel et les risques. Mais on pourrait reprendre, par exemple, en ce moment, on a la crainte d'un coronavirus qui pourrait déstabiliser l'économie. On voit des déstabilisations très marginales pour l'instant, mais on pourrait avoir éventuellement des réactions en chaîne, pourquoi pas. Et on observe par le passé qu'en Europe, des grandes pestes ont décimé à la fois des dizaines de milliers ou des centaines de milliers, voire des millions de personnes, et ont impacté l'économie extrêmement fortement. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un effondrement sur le critère de la santé. Clairement, un pathogène ruine une économie. La question est de savoir dans quelle mesure, après une telle épreuve, une société peut ou pas se reconstruire et rebâtir une économie. Alors, c'est discutable, mais de telles régulations par un pathogène auraient pu permettre par le passé à des économies qui étaient en surcapacité par rapport à leur milieu de retrouver une forme d'adaptation plus raisonnable, ne serait-ce que par la simple baisse de la démographie. Et effectivement, sur une régulation par un pathogène, on retrouve une société qui peut croître de nouveau dans des conditions peut-être meilleures. Donc, en s'inspirant du passé ou en allant chercher ce qui s'est passé dans le passé, on pourrait se dire, eh ben, finalement, c'est des grands systèmes de régulation. C'est terrible, évidemment, pour ceux qui souffrent ou qui
meurent.
Ou qui meurent.
Ouais, ils ne le savent pas.
Pour les proches et pour ceux qui subissent directement l'effet de la cause ou du paramètre qui vient faire s'effondrer le système. Mais on pourrait se dire, après coup, c'est la bonne formule ou c'est la bonne façon qu'ont les écosystèmes de réguler ceux qui les exploitent et qu'après, ça peut mieux se passer. Donc oui, on peut utiliser le passé pour illustrer, comprendre et anticiper l'avenir. Mais, et c'est là où la situation est vraiment clairement plus délicate que tout ce qui s'est passé par le passé, pour plein de raisons, la situation que nous vivons est totalement inédite. Et en particulier parce que désormais, ce qui a changé, c'est que pour tous les effondrements de civilisations passées, il y a deux choses qui ont changé de façon radicalement différente, sont radicalement différentes. D'une part, les écosystèmes, après un effondrement de société, se reconstituaient. Parce que les variations climatiques étaient relativement faibles, peu impactées par l'humain. Elles n'étaient pas impactées de façon totalement neutre. Enfin, elles étaient aussi impactées par l'humain, mais de façon tout à fait marginale par rapport à notre impact aujourd'hui. Et ce qui fait qu'une société qui s'effondrait pouvait voir certains de ses descendants retrouver un mode de vie compatible avec les écosystèmes restaurés naturellement. Et peut-être refonder une société et repartir et refonder une nouvelle civilisation. Et ce paramètre-là a changé radicalement. Aujourd'hui, sur les échelles de temps que nous allons traverser, en particulier au cours de ce siècle, mais probablement pour les siècles qui vont suivre, les conditions biosphériques vont s'aggraver. C'est quelque chose que les climatologues savent de façon quasi certaine.
Par exemple, au niveau des températures, tu dis, c'est quoi les conditions biosphériques ?
Les conditions biosphériques, ça veut dire que nous entrons dans un système climatique de plus en plus chaotique, dont la moyenne de température mondiale, certes, va augmenter pour très longtemps. Mais ce paramètre-là n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'autour de cette moyenne, les écarts à la moyenne augmentent plus vite, déjà, c'est déjà mesuré, que la moyenne elle-même.
Comme par exemple là en Australie, où des records, ou en France d'ailleurs, des
partout.
Records de température déterminés sur une durée relativement courte, enfin beaucoup plus longue que d'habitude, mais néanmoins des records.
Et des records qui sont hors catégorie, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais existé pour certains territoires.
Ça.
Jamais existé, même peut-être d'histoire d'homme, c'est-à-dire qu'on sort d'une période glaciaire et que là nous entrons dans des paramètres climatiques qui ont plusieurs milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'années d'ancienneté, pour certaines estimations, plusieurs millions d'années.
Tu as dit là, comme ça, des températures qui vont continuer d'augmenter et pendant longtemps. Il y a quand même une volonté, en tout cas politique et chez les gens, d'essayer de pousser à justement stopper les effets de gaz à effet de serre, enfin les gaz à effet de serre, et de dire on arrête l'augmentation à 1,5 ou à 2. Donc là, je vois déjà une rupture avec cette volonté ou cette envie ou cette... Tu vois ce que je veux dire?
Oui, bah, il faut bien, bien
différent. Objectif. Il y a un objectif apparemment qui n'est pas respecté, mais on espère qu'ils vont le respecter pour dire on arrête les frais à 2 degrés, par exemple. Alors ça, c'est juste la question de réchauffement. Mais il semble que dans ton discours, en tout cas ce que j'ai entendu, c'est que ça va continuer à augmenter pendant longtemps. Donc ça veut dire que toi, tu ne crois pas à ça. Enfin,
ah non, clairement. Vas-y. Et puis là, ce que tu viens d'illustrer, ce sont les discours politiques autour du risque climatique qui ne sont pas les discours des climatologues. C'est-à-dire que les climatologues, aujourd'hui, savent que même si nous suivons la trajectoire la plus vertueuse en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui correspond à quelque chose qui est estimé entre la réduction annuelle entre aujourd'hui et 2050, une réduction annuelle de PIB de entre 5 et 10 %
par année.
Par année.
Donc j'avais entendu 13, mais OK.
Voilà, c'est variable. Il y a plein d'estimations. Je prends la fourchette qui est la plus souvent ouais. utilisée. Le GIEC dit d'une autre façon, il faut diviser par deux les émissions de CO2 jusqu'en 2030, donc dans 10 ans, et en avoir zéro en 2050, ce qui correspond peu ou prou à entre 5 et 10% de réduction annuelle de PIB. Et surtout, déjà, un premier paramètre, c'est qu'on se retrouve à zéro en 2050. Zéro émission de CO2. Dans l'état actuel des connaissances scientifiques et des techniques, on ne sait pas comment avoir un PIB fort en 2050 avec zéro émission de PIB. Zéro émission de CO2, pardon. Donc, les climatologues qui, même dans ce scénario-là, c'est ça que je voulais dire, envisagent que nous luttions au mieux contre les émissions de CO2, savent désormais que de toute façon, nous dépasserons les 1,5. C'est acquis. À cause d'un paramètre qui s'appelle l'inertie climatique, qui est largement discuté, mais qui est quand même... on va dire que, pour faire court, le CO2 qui va jusqu'au 1,5 degré de réchauffement est déjà dans l'atmosphère. Et par inertie encore un tout petit peu plus longue, et parce que de toute façon nos économies ne s'arrêtent pas du jour au lendemain, les 2 degrés sont, pour quasiment tous les experts, seront franchis avant 2050. Et là j'utilise vraiment encore des fourchettes relativement souples, c'est-à-dire que pour les rapports les plus alarmistes, on pourrait atteindre ne serait-ce que ponctuellement les 1,5 degrés dans les 5 ou 10 prochaines années. Et franchir les 2 degrés en 2040. Donc voilà ce qui est la littérature scientifique contemporaine. Un rapport est sorti hier et aujourd'hui pour le gouvernement britannique qui explique que le gouvernement britannique, en l'état actuel des connaissances techniques, sera incapable, même si tout se passait au mieux, de respecter les accords de Paris et de la COP21. C'est-à-dire que là, les climatologues discutent avec les techniciens et les économistes pour savoir ce qui est vraiment raisonnable. Mmh. Et bien, si tout se passe au mieux, on franchit quand même les seuils qu'on ne doit pas dépasser. Donc quand j'ai dit ça, ça veut dire que si nous franchissons, comme cela est craint, les 2 degrés, même aux alentours des 2050, le climat pourrait éventuellement se stabiliser, mais pas au cours de ce siècle. Il faudrait une politique vraiment beaucoup plus proactive dans la réduction des émissions de CO2. Et pour avoir une stabilisation à l'horizon de ce siècle, les quelques scénarios RCP inférieurs à 2,6 qui sont envisagés.
RCP, c'est
le nom des scénarios du GIEC qui, en fonction de la sensibilité climatique, estime du taux de réchauffement à la fin du siècle en fonction du taux de CO2. Et je ne suis pas moi-même climatologue. Ce que je lis et ce qui est largement diffusé maintenant, c'est que oui, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, les températures vont, sinon augmenter, en tout cas ne pas se stabiliser au cours du siècle prochain. Les estimations les plus sûres, c'est entre 3 et 5 degrés. Et vous savez comme moi qu'il y en a de plus élevés à la fin de ce siècle. Un dernier paramètre, les écarts à la moyenne augmentent plus vite que la moyenne. Mmh, ça, c'est vraiment le plus ennuyeux pour l'agriculture en particulier. Mmh. Et de toute façon, les moyennes ne sont pas les mêmes au-dessus de l'océan et au-dessus des terres, ce qui fait qu'on observe déjà en moyenne annuelle, ici par exemple, à Lausanne en Suisse, ou autour du massif montagneux du Mont Blanc, entre 3 et 4 degrés de plus que la moyenne mondiale. Donc on est déjà sur des températures très hautement improbables pour 1,1 degré de réchauffement planétaire.
Oui. Et je t'avais entendu parler dans une de tes conférences que c'est un peu cette raison-là qui ne permettra plus aux populations de protéger leur milieu. Est-ce que tu peux développer un petit peu cette incapacité à protéger son milieu ?
Alors, sur quel... parce que la protection du milieu, c'est quelque chose de très... vaste, comme c'est une question très vaste.
Ouais, bah j'imagine qu'on dit ça parce que dans le milieu militant et autres, on voit beaucoup de groupes, pour le coup, c'est pas des institutions, mais des groupes. D'accord. Qui essaient justement d'induire des changements de pratiques. On entend permaculture, on entend plein de projets, d'idées comme ça, et qui visent à protéger leur milieu d'une certaine manière ou trouver plus de résilience.
Ah, d'accord. La notion de protection de l'environnement sur le plan écologique, c'est une invention, pour moi, c'est une invention conceptuelle du XXe siècle, mm-hmm. Qui est le substrat prescriptif de l'ensemble de l'écologie politique. C'est-à-dire qu'il a été décidé, c'est ce qui s'appelle un raisonnement à rebours, il a été décidé que l'humanité était capable de protéger son milieu. C'est-à-dire qu'elle pouvait agir pour que son milieu ne soit pas impacté d'une façon ou d'une autre par son comportement. C'est un présupposé qui n'est pas vérifié. Il n'y a aucune littérature scientifique qui dise l'humanité en tant qu'espèce est capable de protéger son milieu. Et en fait, ce présupposé est à ce point en décalage avec la réalité que quand on lit en fait un peu de biologie ou un peu d'écosystémique ou un peu d'écologie tout simplement, on se rend compte qu'il n'y a pas un être vivant de toute l'histoire des êtres vivants sur la planète qui ait jamais protégé son milieu. En fait, ça n'a pas de sens sur le plan de la biologie, sur le plan des interactions entre un être vivant et son milieu. Mmh. Un être vivant a besoin intrinsèquement de capturer de l'énergie dans son milieu pour exister, pour que son métabolisme fonctionne et qu'il puisse assurer sa reproduction. Et pour capturer de l'énergie, s'il n'interagit pas avec son milieu, il n'assure pas ses fonctions vitales. Et donc,
Mais est-ce qu'interagir veut dire dégrader ?
Bien sûr, la nuance est importante. Mmh. Interagir ne veut pas dire dégrader, mais ça veut dire que l'état du milieu change, donc il n'y a pas protection, le terme n'a pas de sens, c'est là où je voulais en venir.
D'accord.
Et surtout, les interactions entre un organisme ou des organismes et leur milieu, elles sont plus ou moins régulées. Donc elles ne sont jamais protectrices, elles sont toujours impactantes. Il y a des rapports de régulation entre les proies et les prédateurs, il y a des rapports de consommation entre les besoins en ressources de n'importe quelle cellule et le milieu, ne serait-ce que pour les minéraux, donc il y a toujours transformation du milieu. Mais ces transformations sont toujours régulées par les interactions que chaque individu ou espèce a avec toutes les autres espèces qui vivent dans le même milieu, ou régulées par le simple fait qu'il y a ou non des substances disponibles, ou de l'énergie, ou de l'eau, donc des ressources. Donc nous sommes une espèce qui a pu, pour des raisons évolutives tout au long de son histoire, acquérir des capacités donc, de dérégulation de l'approvisionnement en ressources et en énergie. Elle s'est appropriée plus de ressources et d'énergie que les autres espèces autour d'elle. Et ça, c'est tellement viscéralement nécessaire pour l'être humain que s'il s'engage à protéger son milieu et qu'il le fait, en fait, il ne peut plus du tout obtenir quoi que ce soit parce qu'il ne doit plus toucher à son milieu. En fait, cette notion de protection de l'environnement a un sous-jacent suicidaire. Si vous voulez ne pas interagir avec votre environnement, vous ne vous nourrissez plus, strictement.
Ok.
Voilà.
Ouais. Il y a quand même cette idée de vouloir guérir. J'ai entendu qu'il y avait même eu des exemples de bouts de désert qui avaient été refertilisés, entre guillemets, avec des techniques, des choses comme ça. Donc, vraiment, on ne peut pas améliorer un environnement et le rendre à nouveau fertile, biodiversifié. C'est impossible.
La seule chose à faire pour protéger son milieu pour un humain, c'est de ne plus y toucher. La vie n'a jamais eu besoin d'aucun être humain pour parfaitement bien se porter. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose de très
important.
Sur
le long terme, en tout cas.
Oui, assez rapidement, en fait. Dès que l'humain se désinvestit d'un territoire, le territoire va mieux, c'est très clair.
Okay.
La seconde chose, c'est que le raisonnement que vous avez eu, qui dit on est capable de restaurer certains environnements, c'est un raisonnement qui fonctionne exactement selon le fonctionnement cognitif d'un occidental. Pardonne-moi.
Ça va, j'accepte la critique entière.
Voilà, c'est-à-dire qu'on circonscrit une zone du réel et on dit là, ça se passe de cette façon-là et on se fiche de savoir ce qui se passe autour.
Mmh.
Et on décide, là, c'est bien.
Mmh.
Et donc, même, on va en faire un programme politique et on va inventer les parcs naturels et on va inventer la sauvegarde du milieu, la protection des animaux, etc.
Ouais.
Mais cette pensée en système isolé qui est justement typique, on va dire, de l'ontologie occidentale, c'est-à-dire la façon qu'ont les occidentaux de s'inscrire dans la réalité, elle est complètement biaisée, parce qu'évidemment, les endroits qui sont restaurés étant donné qu'ils sont soumis à des paramètres climatiques et puis à la circulation des animaux qui traversent les frontières de ce territoire et puis n'importe quel polluant qui traverse évidemment le territoire parce qu'il ne s'arrête pas aux frontières, fait que ce territoire-là est impacté par toute l'activité économique de ces mêmes humains qui se disent « là, on a protégé le milieu ». Ce qui fait qu'à terme, eh ben, toutes les zones protégées que l'humanité aura créées pendant 150 ans, 200 ans, là, les premières, c'était aux États-Unis, elles seront de toute façon plus ou moins impactées, voire dévastées par le réchauffement climatique. C'est assez simple, malheureusement, sachant de toute façon que toutes contiennent du plastique, du mercure, des métaux depuis que les Romains ont fondu des pièces métalliques, parce qu'en fait, dès que les Romains ont utilisé des hauts fourneaux, ben, la planète entière a été couverte de métaux qui n'étaient pas, qui ne faisaient pas partie des écosystèmes. C'était négligeable, évidemment, mais c'est pour comprendre que les systèmes isolés, ça n'existe pas, et ça n'a jamais existé, et depuis toujours.
Okay.
Et cette pensée-là, elle est autotoxique. Parce qu'on est tellement convaincu qu'on peut, dans certaines zones, protéger l'environnement. Et notre cerveau en fait si facilement une généralité que, in fine, on se dit, on est capable de protéger le milieu.
Voilà.
Ce qui est factuellement faux.
Ok. Parce que, alors, tu dirais, c'est sans issue de dire... Parce que je crois que maintenant, il y a des bouts d'océan qui ont même été mis en zone de protégée. L'idée de vouloir toujours grandir et de dire, il y a ces bouts de la planète qu'on ne touche pas, c'est... Ça sert à rien, c'est la mauvaise direction.
Alors,
ça...
J'ai pas dit qu'il fallait pas le faire. C'est quelque chose qui est discuté. Est-ce qu'il faut, pour maintenir une adaptation à long terme, comme certains le proposent, diviser la planète en deux, là c'est les humains et là c'est la nature et on n'y touche pas? C'est une stratégie. Mais à aucun moment, ça ne sera une stratégie de protection du milieu. C'est juste un arbitrage et un compromis entre une activité humaine qui va continuer, une nature qui va tenter tant bien que mal toute seule de se restaurer, et des interactions entre les deux qui vont continuer et qui seront toujours là. Toujours là.
Ouais.
Donc ça reste un artifice de pensée, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire.
Non, okay.
C'est juste que c'est un peu triché que de dire que ça va solutionner le problème et que c'est de la protection du milieu. C'est même complètement triché.
Oui, tout à fait. Et là, tu viens c'est intéressant cette vision de la nature d'un côté, l'être humain de l'autre. Je crois que tu as aussi développé un petit peu cette notion de séparation entre ce qu'on croit humain et donc hors nature et la nature qui... du coup, serait pas humaine. Est-ce que tu peux développer un petit peu ce paradoxe ou, parce que finalement, on peut dire assez facilement, mais nous, les êtres humains, on est issus de la nature, bien sûr qu'on est la nature, mais pourtant, dans tout le vocabulaire, il y a une distinction très précise entre les humains et la nature.
Alors, j'ai travaillé sur ce sujet-là, mais je ne sais pas moi du tout qui suis l'auteur conceptuel de ce qui s'appelle le naturalisme. Hein, c'est Philippe Descola, qui est un anthropologue qui a précisément étudié... dire que Philippe Descola a parfaitement décrit toutes les façons qu'ont les humains de s'inscrire dans le monde, ça serait dire beaucoup. Tous les anthropologues ne sont pas forcément d'accord avec la catégorisation qu'il propose. Malgré tout, je trouve que, en particulier pour la dernière ontologie dont il parle, qui est l'ontologie naturaliste, elle fait beaucoup de sens. Et effectivement, depuis, on va dire que la mondialisation est effective, et depuis que le capitalisme est venu renforcer notre puissance économique, nous sommes inscrits, nous en tant qu'humains dominants, ce n'est pas le cas de tous les humains, nous nous sommes inscrits dans une forme de toute puissance avec le réel qui a fait que nous nous sentions tellement affranchis et indépendants des contraintes que nous avons fini par conceptualiser tout à fait involontairement, inconsciemment, mais progressivement, conceptualiser une rupture ontologique. C'est-à-dire que nous nous sommes autoproclamés souverains et sans dépendance causale avec les phénomènes naturels. Alors, supérieur, de fait, mais dans cette ontologie, effectivement, là, celui qui se déclare comme affranchi des chaînes causales de la nature obtient un ascendant, évidemment. Et ce biais d'interprétation du réel est celui, je pense, qui a percolé, mais Philippe Descola pense évidemment cela aussi, a percolé jusque dans nos modèles politiques, jusque dans nos modèles économiques, évidemment, puisque depuis Jean-Baptiste Say, en 1803, on a déclaré que l'économie était totalement indépendante des limites des ressources et de la considération de l'énergie, par exemple. Ça a été factuellement pensé, et les modèles économiques se sont ensuite développés de cette façon-là. Donc là, c'est typiquement l'ontologie naturaliste de séparation avec la nature qui percole jusque dans les modèles économiques, dans les modèles politiques et également, dans le sens où nous avons conçu, conceptualisé des clivages politiques qui sont devenus des clivages gauche-droite, hein, schématiquement, alors que précédemment, en gros, les choix politiques n'étaient pas du partage ou de l'individualisme, pour faire simple, mais étaient des choix qui arbitraient entre faut-il croître ou conserver l'État. Alors c'est quelque chose dont on a encore l'existence dans les partis. On a des partis conservateurs et des partis progressistes. Mais l'ontologie politique, démocratique, on va dire historiquement récente, moderne pour nos pays dominants, c'est l'ontologie gauche-droite. Et cette ontologie-là, à mon sens, ce clivage politique-là est une construction relativement récente, alors qu'auparavant, dans des ontologies où on comprenait que les ressources étaient limitées et où on en tenait compte pour faire des choix, les arbitrages, c'était est-ce qu'on va vers plus de destruction, mais plus de gloire et plus ou moins éphémère, ou est-ce qu'on conserve l'État et du coup, on est beaucoup plus sûr de vivre longtemps. Et les clivages gauche-droite étaient inexistants dans le paysage politique. Donc là, j'ai fait très court, mais il y a effectivement... d'une simple estimation qu'on est indépendant des ressources, du monde vivant, de la nature, ontologiquement affranchi de ça, en découle toute une définition complexe des schémas sociétaux. Voilà, c'est ce que je pourrais dire sur le naturalisme de Philippe Descola et notre séparation avec la nature qui a un autre aspect très émotionnel et problématique, en particulier face au retour du principe de réalité que nous impose le risque d'effondrement, c'est que je pense que la plupart des personnes à qui ce podcast va être diffusé sont intrinsèquement convaincues de leur souveraineté décisionnaire ou de leur capacité à penser le monde et de prendre une décision et que cela change le monde. En fait, la causalité chez les occidentaux, chez les naturalistes, elle vient de celui qui pense et elle s'impose à l'extérieur. Et cette causalité-là, elle est, je pense, moi, intrinsèque à cette ontologie naturaliste. C'est un renversement des chaînes causales, dans le sens où tous les êtres vivants et tous les humains jusqu'à l'agriculture, mettons, ont toujours, lorsqu'ils avaient une décision à prendre, interrogé d'abord le réel, par des quantités d'intermédiaires plus ou moins considérées comme métaphysiques ou magiques ou surnaturelles. Enfin, voilà, tout cet univers symbolique qui permettait de communiquer avec la nature. Permettait de questionner le monde, de savoir ce qu'il pensait sous forme symbolique ou métaphorique, ou pas ce que le monde pensait, mais c'est un biais interprétatif de ma part, de ce que disaient de lui les limites de ce monde-là, et ensuite seulement ces communautés prenaient des décisions. Et tu vois que le schéma causal s'est complètement renversé. Nous sommes aujourd'hui convaincus qu'on prend une décision politique, elle sera appliquée et ça ira mieux. Oui. Et aujourd'hui, le risque d'effondrement, c'est le retour massif, violent et jusqu'à présent irrévocable d'une causalité qui est totalement inverse à celle qui nous a construit. Aujourd'hui, toutes les décisions qui sont prises doivent d'abord questionner les limites des ressources. Si on veut faire des éoliennes, il faut se questionner sur la quantité de cuivre qu'il y a sur la planète. Et on n'a tellement pas l'habitude de le faire, on a appris aux ingénieurs à dire « faites-moi une éolienne, ne vous préoccupez pas de la quantité de cuivre qu'il y a sur la planète ». C'est comme ça que les ingénieurs ont appris à travailler. Aujourd'hui, les jeunes ingénieurs qui ont compris les limites font appel à des personnes comme moi ou d'autres qui connaissent la question ou qui travaillent la question du risque d'effondrement pour faire la jonction entre les limites planétaires et le nombre d'éoliennes qu'ils vont pouvoir construire ou créer. Et ça, c'est un changement ontologique très profond et très rude émotionnellement. Parce que quand on a construit des capacités émotionnelles qui sont détachées du monde à ce point, et qu'on doit violemment les réancrer dans le monde, on se fragilise énormément. Et donc la période est critique, et on le voit dans la rue sous de multiples formes, de multiples façons, et on voit en particulier la jeunesse s'emparer du risque écologique parce qu'elle est en souffrance. Et vraiment, ce qu'a dit Descola de la construction naturaliste de l'individu, du sujet ou de la société, c'est en soi un risque de grande fragilisation au titre d'autant plus grand que c'était un avantage adaptatif précédemment de se sentir affranchi de la nature.
De la causalité. Quand tu dis la jeunesse est en souffrance, effectivement, moi je les côtoie pas mal, il y a pas mal de peur Mais de quelle souffrance tu fais référence, toi? Elle est en souffrance, pourquoi? Parce qu'elle est forcée à changer sa façon de penser, à changer et à être mal à l'aise dans une structure institutionnelle qui ne correspond pas justement aux besoins pour éviter ou vivre mieux cette causalité, cet effondrement, donc.
Oui.
Ouais, la souffrance de la
Ouais.
jeunesse, comment tu la perçois? Parce que bon, on est quand même en Occident. La jeunesse occidentale ne souffre pas en comparaison
Absolument.
de la jeunesse du Sud et par exemple des enfants qui meurent toutes les 4 secondes au Yémen.
Ouais. Alors,
C'est une statistique, mais la misère et la souffrance est d'un autre ordre là-bas.
Absolument, et c'est très important. Il y a une étude qui est sortie très récemment sur hier, qui a été faite par l'IFOP sous la commande de l'Institut Jean Jaurès, la Fondation Jean Jaurès, je crois, et qui montre à quel point la collapsologie ou l'effondrement sont des thématiques non seulement très occidentales, mais surtout francophones.
Ouais.
Donc il y a vraiment un biais culturel et un biais de classe, si je puis dire, sur cette question-là. Et évidemment. Par contre, ça n'est pas nouveau que les souffrances des jeunes occidentaux soient totalement décorrélées des autres souffrances du monde, à plus forte raison que cette décorrélation est liée à un naturalisme. La sensation que nous avons eue toute notre vie, toi et moi, on a à peu près le même âge, de construire dans un monde si facile, si agréable, dans lequel les émotions positives sont si, voilà, si accessibles, a eu un prix. Pour deux champs de l'existant que sont d'une part le vivant en général et tous les esclaves qui travaillaient pour nous. Et ce prix-là a été totalement occulté parce que le naturalisme jouait. Quand je disais que le retour du principe de réalité nous ramène quantité de limites et de mauvais souvenirs ou de mauvaises actions ou de culpabilité, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'il faut absolument relativiser la souffrance des petits occidentaux qui vont manifester au titre d'Extinction Rebellion. Et qui, je vais reprendre la caricature parce qu'elle est vraie, elle est factuelle, et qui sont très fiers d'avoir bloqué un magasin iPhone, et qui en parlent sur les réseaux sociaux
Avec leur iPhone.
avec leur iPhone, et c'est marqué iPhone sur la photo. Cette souffrance-là, elle est aussi dérisoire, et elle a un effet aussi superficiel sur la réalité, que d'autres personnes souffrent vraiment, profondément, voire meurent du même geste. Et ce geste-là est terrible, parce que ce que se posent comme question des gens extrêmement privilégiés, ce sont des questions qui ont déjà fait souffrir quantité de personnes, et qui sont toujours en train de les faire souffrir, alors même qu'elles se posent des questions pour éviter de souffrir. Oui, forme de paradoxe quasiment insurmontable. Le retour du principe de réalité de l'effondrement, c'est... Alors, on parle beaucoup de reconnexion à la nature. Je vais prendre quelques minutes pour parler de ce sujet-là. L'ontologie naturaliste motive, ou plutôt l'incorporation de l'ontologie naturaliste par certains, les motive à préconiser, prescrire la reconnexion à la nature, ce qui paraît logique finalement. Sauf que, ou plutôt la reconnexion avec la réalité, ou la reconnexion avec
C'est un
voilà,
environnement.
son environnement.
Ouais.
Très bien. Sauf que, effectivement, ce qu'on observe dans des stages ou des prescriptions ou des propositions thérapeutiques ou des accompagnements, en tout cas, ce qu'on observe, c'est que les personnes se reconnectent avec la nature telle que l'Occident définit la nature. C'est-à-dire comme quelque chose qui est virginal, pur, sacré, éternel, bienveillant, accueillant. Aucun de ces mots ne correspond à la nature réelle, à la vie telle qu'elle se fait depuis 4 milliards d'années. La vie, dans la réalité, c'est un milieu hostile, pas accueillant, qui n'a pas besoin d'humains, pas besoin d'humains du tout, et qui, lorsqu'elle est perturbée par des humains, finit par réguler d'une façon ou d'une autre la quantité d'humains entre eux qu'il y a dans son milieu. De tas de façons différentes, plus d'énergie, pathogènes, prédation autrefois pour les chasseurs-cueilleurs, etc.
Donc la nature est idéalisée.
Mais complètement. La nature, et Philippe Descola, pour le coup, le dit très bien, la nature n'existe pas. La notion de nature telle que les Occidentaux l'ont inventée, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de chose dans le réel qui s'appelle nature. Et donc, parmi les choses que ceux qui se reconnectent à la nature occultent en ne se reconnectant qu'à une illusion ou une construction culturelle de la nature, c'est aussi les humains auxquels ils n'ont pas du tout envie de se reconnecter, parce que ces humains-là leur fabriquent leur iPhone. Ouais. Et on voit encore à quel point la structure naturaliste de l'esprit vient se jouer dans la rue au titre d'Extinction Rebellion sans du tout se réformer. Voilà, il n'y a pas, je n'ai pas entendu Extinction Rebellion proposer une ONG qui aurait pour mission première, d'une part, je vais énoncer trois prescriptions que je donne. Si Extinction Rebellion un jour lance une ONG pour faire trois choses, réduire le PIB des pays occidentaux en priorité, faire que les pays occidentaux distribuent les revenus et le PIB aux pays qui en ont besoin immédiatement. Mmh. Et la troisième chose, c'est que tous les jeunes qui sont dans la rue retournent au champ à l'échéance de 10 ou 20 ans pour remplacer ne serait-ce que les retraités de la génération du baby-boom, qui sont les agriculteurs qui sont en fin de carrière. Là, OK, nous aurions une déconstruction paradigmatique et progressive du récit ontologique, naturaliste, et on aurait vraiment un schéma de réforme. Je n'entends pas ça. C'est même pas du tout dans les prescriptions ou les préconisations d'Exer ou d'autres.
Non, pas, ça va pas en détail comme ça, effectivement. Mais, ça veut
mais même
dire
pas
que
dans
ça
l'intention.
Complètement
en fait.
Exclu. Ben, l'intention, elle est de dire, de contraindre ou de forcer les décideurs à, si c'est ça qu'il faut faire, aller dans ce sens-là. Donc, je vois pas une exclusion directe, mais effectivement, quand même une. C'est pas, en tout cas, ça pas, c'est pas exprimé comme ça et il n'y a pas cette conscience, très certainement, il n'y a pas cette conscience-là. Mais je te trouve un petit peu dur par rapport à eux, peut-être parce que aussi je fais partie d'Extinction Rébellion.
Mais alors, c'est très important.
Et j'ai l'impression qu'il y a quand même une éducation qui se fait en temps réel. C'est-à-dire que voilà, on prend la rue, on s'assied, on se met ensemble, on parle et puis on est conscient qu'on a merdé et que donc on doit reconstruire. Donc il y a quand même une humilité, j'espère. Qui pourrait à terme arriver à la conclusion que tu es en train de donner là, c'est-à-dire qu'effectivement si on cherche la cohérence et à vraiment changer le paradigme à ce moment-là, agir concrètement en ce sens, je sens que, pas forcément que c'est exclu, même
très
si effectivement actuellement c'est pas conscientisé cette distance encore à parcourir et qui est claire à mes yeux quand tu l'expliques. Ouais.
Alors du coup, je serais ravi d'avoir des contacts plus rapprochés avec XR pour qu'on en discute et qu'on voit à quel point ce qui est naturel, enfin ce qui est spontané et de façon très légitime. C'est-à-dire qu'à aucun moment j'ai dit qu'il ne fallait pas qu'XR aille dans la rue.
Non, non, tout à fait. Ouais. C'est pas excusé.
Voilà, à aucun moment j'ai dit XR, je pourrais le dire pour autant, mais à aucun moment je dis XR est définitivement contre-productif. Mm-hmm. Pour autant, si XR conserve les schémas tels qu'on vient de les décrire...
Ou les grèves du climat, pour le coup.
Ou les grèves du climat, voilà.
Ou les, d'autres activistes qui fonctionnent de manière X ou Y.
On a parlé d'XR, on pourrait généraliser effectivement les quelques points que j'ai énoncés à d'autres, d'autres mouvements. Donc ne nous focalisons pas sur XR, effectivement.
Non, tout à fait. On pourra parler après de la désobéissance civile, mais...
Ouais, très bien. Mais effectivement, donc je ne dis pas que ces mouvements-là ne vont pas évoluer.
Non, non.
Mais je dis...
Actuellement.
La marche à descendre... pour retrouver une inscription dans la réalité de nos dépendances à quelque chose qu'on détruit tous les jours, chaque fois qu'on respire, elle est immense et elle est tout à fait pas estimée, à mon sens.
Ouais. Et puis, si on parle du paradigme politique gauche-droite, est-ce que tu n'as pas l'impression que justement les mouvements qui se proclament de la décroissance, ils cassent cette histoire de justement individualisme versus... collectivisme ou conservatisme versus progressisme. Voilà une nouvelle force qui est à la fois plutôt collective ou tournée vers le collectif, mais qui est plutôt conservatrice pour le coup, la résilience, etc. Comment tu perçois cette nouvelle idéologie de la décroissance ?
Alors, nouvelle, pas tant que ça, mais...
Ouais. Non, mais je veux dire par rapport à l'acceptation... de la population.
Alors précisément, c'est une très bonne remarque, puisque c'est, je pense, le retour ou la réactualisation des clivages historiques et qui étaient déjà ceux des chasseurs-cueilleurs. C'est qu'on a un problème, il faut savoir si on continue à croître ou si on doit réduire la voilure pour ne pas augmenter le risque du problème. Donc là, vraiment, je pense qu'on est en train de déconstruire ce qui a été fonctionnel pendant 300 ou 400 ans, c'est les clivages gauche-droite, en temps de croissance. Parce qu'en fait... Les clivages gauche-droite, ils ont l'intérêt de ne plus de rendre invisible le choix précédent qui était conservatisme versus progrès, puisqu'en fait les clivages gauche-droite s'axent tous les deux sur le progrès.
Oui, absolument.
Sur la croissance.
Oui.
Et du coup, l'alternative croissance versus conservatisme n'existe plus dans le débat politique.
Non.
C'est très important. Mm-hmm. Parce que le débat démocratique que tout le monde défend est toujours fondé et propositionnellement, tous les pays du monde vont encore proposer des clivages gauche-droite sensiblement.
Absolument, surtout en Occident.
Surtout en Occident.
Aucun parti décroissant qui a des majorités, par exemple.
C'est extrêmement marginal. Mmh. Les décroissants eux-mêmes, à chaque élection, se demandent s'ils présentent ou pas un programme parce qu'ils ont peur de se corrompre.
Oui.
Ce qui est une question tout à fait légitime. Mmh. Donc oui, il y a bien un retour à des schémas antérieurs à ce qui a, à mon sens, d'autant mieux servi la croissance, ce clivage gauche-droite, que c'était un artifice politique qui n'avait aucun lien avec l'impact réel de nos économies sur le milieu.
Mmh. Mmh.
Et donc vraiment, je suis quelqu'un qui réfléchit très différemment de ce qui est enseigné à l'université et ce qui est le mode de pensée classique dont j'ai parlé tout à l'heure chez les intellectuels occidentaux. C'est-à-dire, on pense le monde, on le conceptualise, on écrit le récit qui correspond à cette pensée et on va l'appliquer sur le monde et ça va changer le monde.
Voilà.
Et ça ne... En fait, dans le réel, ça ne fonctionne pas comme ça. Adam Smith, oui, a conceptualisé le capitalisme, mais c'est pas parce qu'Adam Smith a conceptualisé le capitalisme qu'il s'est appliqué. Ça, ça serait un schéma de toute puissance. C'est le schéma occidental, je pense, ça se fait. Ce qui s'est passé lorsque le capitalisme a pris de l'ampleur et s'est déployé, c'est que un ensemble de personnes ont conceptualisé un nouveau modèle sociopolitique et économique, et qu'il était à ce moment-là compatible avec une circonstance réelle et une accessibilité à un ensemble de ressources pour l'humanité qui confirmait a posteriori le modèle. Je prends le schéma à l'envers, la réflexion à l'envers. La décroissance est conceptualisée depuis très longtemps, on l'a dit, hein, c'est pas un schéma de pensée tout à fait nouveau, c'est même très ancien, ou le conservatisme, peu importe. Mais à aucun moment, ce récit n'a rencontré de réalité qu'il confirmait. Donc en fait, il a été éliminé de la sélection des récits. Et successivement, tous les récits qui étaient facilitateurs de l'exaction écologique et qui permettaient à de plus en plus de gens, d'une part, d'exister et de s'enrichir, ont été favorablement sélectionnés a posteriori par ceux qui voyaient qu'ils avaient plus d'argent et qu'il y avait plus d'enfants qui survivaient aux famines ou aux diverses maladies. Et donc, c'est une forme de boucle de rétroaction positive qui a donné l'illusion après coup. C'est une forme de biais du survivant.
Mmh.
Aujourd'hui, on écrit le récit que des personnes tout en haut ont décidé le capitalisme et l'ont imposé. C'est en partie vrai, puisqu'ils ont utilisé des outils pour l'imposer, la publicité, la coercition, la propagande, tout ce qu'on veut. Sauf que cette propagande, cette coercition et ces publicités seraient tombées dans le vide s'il n'y avait pas eu aussi de l'énergie et des ressources, des techniques et du monde pour profiter des produits fabriqués et mis sur le marché.
Mmh.
Donc on ne peut pas isoler une partie de la chaîne de causalité pour dire le problème se trouve là, il faut résoudre ce problème-là. C'est dysfonctionnel, et je vais le dire, je commence à le dire de plus en plus fréquemment.
Mm-hmm.
Le récit politique et idéologique qui a été le plus en échec de toute l'histoire des récits politiques et idéologiques, c'est le récit anticapitaliste. Parce que ce récit anticapitaliste coupe la chaîne de causalité en disant des personnes ont décidé que, donc on attaque les personnes ou on attaque leurs outils et ça va changer le monde. Ben, ça n'a jamais changé le monde et même plus on a essayé de faire ça, plus ces personnes ou ces outils conceptuels se sont renforcés en utilisant les critiques qui leur étaient faites. Pourquoi ce récit anticapitaliste s'est façonné et est en échec systématique? Parce qu'il ne tient pas compte de tout le reste de la réalité, c'est que dans les faits parfaitement mesurés et connus, la mise en œuvre et le déploiement du récit capitaliste a augmenté la capacité de charge de l'espèce humaine, ce qui a fait que l'humanité est passée de 500 millions à 8 milliards d'êtres humains vivants, et les a fait augmenter en richesse, en sécurité, en santé, en risque de famine qui disparaissait, en particulier au XXe siècle. Donc si on oublie le retour de la réalité sur l'application du modèle, on a l'impression que la faute vient au modèle, alors qu'en fait, c'est un système complexe dont la causalité, on va dire l'origine du problème, se trouve à la fois dans ceux qui ont consommé et dans ceux qui ont conceptualisé ce qui a permis à tout le monde de consommer.
Mmh.
On parlait de souffrance des plus jeunes tout à l'heure. Une part de leur souffrance vient aussi du fait que, on le disait en fait, on l'a déjà dit, ils sont les acteurs de leur souffrance. Dénoncer le système capitaliste avec un iPhone, c'est quémander le système capitaliste en même temps. et c'est renforcer le système capitaliste en même temps. Autre parenthèse, le « en même temps » macronien, que vous connaissez même en Suisse, je pense, est symptomatique de ça. Parce qu'aujourd'hui, les clivages politiques sont si faibles et si inconsistants pour répondre à la demande de réforme de l'ensemble du système, que le retour du principe de réalité remontre les externalités, les deux bouts de la chaîne, si vous voulez, le « en même temps ». On ne peut pas à la fois être riche et ne pas avoir de colonies. On ne peut pas à la fois être riche et empêcher l'acidification des océans. On ne peut pas à la fois être riche et faire qu'il n'y ait pas d'esclaves au Congo pour extraire ou au Chili du lithium. Mmh. Voilà. Vous avez compris le schéma. Mmh. Et ça, on en revient au schéma naturaliste, c'est faire violence au clivage qui nous constitue.
Mmh. Alors il y en a beaucoup qui pensent que le prochain combat politique, ce sera décroissant contre transhumaniste. Mmh. Donc encore une dérive scientifique. Et ben là, je peux te poser la question, parce que toi, tu arrives avec, au tout début de ce podcast, l'idée qu'il faut avoir une pensée scientifique, etc., etc. Est-ce que tu n'as pas l'impression que tu peux pourrais alors faire le jeu de ceux qui se disent la réponse est dans la science et on va en faire un dogme, mais on se sauvera par ce biais-là.
Bah, là, vous... tu
fais on va y arriver.
Tu fais une association, un amalgame fréquent, voire permanent, entre la science et la méthode scientifique.
Mmh, c'est vrai.
Qui sont deux choses...
C'est pas la première fois, en plus.
Voilà, qui sont deux choses totalement différentes.
Ouais.
Évidemment, je défends une grille de lecture méthodique sur la réalité. Je crois avoir eu ce type de méthode jusqu'à présent dans l'entretien. Ce qui n'est pas du tout défendre le scientisme ou le positivisme ou le progrès scientifique, ce qui sont deux choses totalement différentes. Et j'en reviens pour le coup à ce qui me gêne un peu beaucoup même dans la collapsologie. Pas la collapsologie populaire, c'est-à-dire comment le monde s'approprie le sujet, mais comment la collapsologie a été présentée et est présentée dans les livres des auteurs historiques. La collapsologie propose une méthodologie très intuitive où reconvoque une forme de préscience du monde fondée sur justement les émotions, les impressions, l'intuition spontanée, etc. Et en étayage de cette intuition et de la légitimité, on va dire, d'une forme d'empirisme spontané comme ça, l'argumentaire est de dire que c'est revenir aux méthodes qu'utilisaient justement les chasseurs-cueilleurs, les populations anciennes, les animistes qui suivaient leurs intuitions.
Mmh.
Et je pense, et en fait l'anthropologie le montre, qu'il n'y a rien de plus faux. Et en fait, les chasseurs-cueilleurs qui étaient en contact direct avec la réalité ne se permettaient pas beaucoup d'erreurs. Parce que la moindre erreur d'interprétation du monde était très rapidement fatale. On ne donnait pas n'importe quelle plante à un enfant s'il avait une maladie. Et celui qui donnait une plante qui n'était pas adaptée et qui n'avait pas été longuement sélectionné et expérimenté, celui qui faisait ça...
C'était la mort.
Ben oui, il était largement, il avait immédiatement exclu de la communauté. Donc, c'est une interprétation totalement erronée que de... chasseurs-cueilleurs les chasseurs-cueilleurs qui constituent 99% de l'histoire de l'humanité fonctionnaient sur l'intuition, la préscience et la magie. Ça c'est une je pense
c'est un narratif justement qui résume un petit peu comme tu disais tout à l'heure l'enchantement qu'on voit dans la nature et cet aspect
précisément c'est une projection
idéalisée.
C'est une projection naturaliste d'occidentale sur un monde qui n'était pas du tout du registre de l'intuition tel que nous on peut l'imaginer. C'est exactement le chemin inverse. C'est projeter la pensée magique d'un occidental sur une pensée qui n'était pas magique.
Ouais, tout à fait.
Chez les chasseurs-cueilleurs. Et ça, c'est très séduisant.
Oui, oui.
C'est très séduisant et ça plaît beaucoup à une population d'occidental qui est en mal d'harmonie, qui est clivée intérieurement, qui se sent pas bien, qui est d'ailleurs de façon terrible maltraitée au travail, maltraitée dans la vie quotidienne. Les femmes psychiquement, moralement, émotionnellement, tout ce qu'on veut. Donc cette demande-là de réassurance émotionnelle, elle est légitime. C'est pas elle que je condamne, on est bien d'accord.
Ouais.
Ce que je critique, c'est d'instrumentaliser ça en énonçant des récits, on en parlait tout à l'heure, irénique. C'est-à-dire des récits qui ont l'intention de pacifier les relations entre les gens et les communautés, mais qui, pour se rendre accessibles à l'audience, voile, dissimule une partie de cette réalité pour rendre cette réalité plus facilement assimilable et acceptable et plus sympathique au premier abord. Mmh. Mais si le prix, c'est dissimuler des choses qui sont intrinsèques et irrévocables, comme par exemple la rivalité quand on s'entraide, ça me pose énormément de problèmes. Mmh.
Parce qu'on ostracise un bout qui fait partie du récit, qui doit aussi être pris en considération.
Absolument. Et c'est à mon sens problématique à moyen terme, parce que lorsque les gens vont réaliser qu'ils n'ont pas eu accès à l'entièreté de la réalité, mmh. c'est-à-dire lorsque vraiment la réalité va revenir dans le monde par contrainte économique, par, je sais pas, violence, terrorisme, etc., ils n'auront pas les outils pour comprendre d'où vient le risque.
Et la compréhension.
Voilà.
D'accord.
Ce qui sera générateur de plus de chaos qu'il n'en aura été évité.
Souvent, on oppose du coup la science à la spiritualité et... Tu as parlé de l'intuition, un petit peu tout ça, la magie. Quelle place ça doit avoir? Est-ce que ça doit en avoir aucune selon toi? Ou est-ce que ça fait quand même du sens? Des fois, je vulgarise un peu et je caricature. C'est aussi pour être sûr que j'ai bien compris et puis pour aborder les sujets. Hein.
Oui, oui.
Alors, qu'est-ce que par rapport à cette spiritualité, qu'est-ce que ça voudrait déjà dire pour toi?
Aucune réserve sur quelques pratiques spirituelles que ce soit, vraiment. L'exploration des mondes intérieurs et de la façon qu'a notre cerveau d'interpréter ce monde et d'en faire des choses aussi terribles que magiques, parce que la spiritualité, c'est pareil, hein, c'est pas quelque chose qu'il faille idéaliser et considérer comme merveilleux.
On a toujours cette tendance-là, ouais, effectivement.
Mais on pourrait parler des pratiques de méditation.
Ouais.
La méditation est une préconisation qu'on entend partout. La méditation, ça peut mettre en souffrance certaines personnes. Ça, c'est quelque chose qui est statistiquement bien connu.
Absolument.
Donc on peut pas préconiser des choses qui paraissent comme ça évidentes et forcément bienveillantes, alors qu'elles ne le sont pas dans les faits. La méditation en entreprise, il y a des personnes qui décompensent des psychoses parce qu'on les a mis dans des situations de méditation de groupe, ce qui les rend fous littéralement, et il y a un danger. Donc oui, pratiquer la méditation, ok. Explorer tout ce qu'il y a à explorer dans les expériences spirituelles, quelles qu'elles soient, avec quelques médiations que ce soit. Moi, j'ai une anecdote. Mon médecin, qui est, je pense, rationaliste et qui soigne avec des médicaments qui me soignent et qui sont faits pour que je sois en bonne santé, sur son bureau a un caillou, et ce caillou-là, c'est quelque chose qui la réconforte. Je n'ai aucun problème avec ça. Si cette personne-là se sent sécurisée avec une forme de pensée magique qu'elle intègre dans sa vie, et que par ailleurs, elle a une pratique tout à fait sérieuse et rigoureuse, c'est la richesse du monde, ça.
Ouais.
C'est la richesse du monde.
On parle beaucoup de développement personnel aussi. Des fois, le monde militant et décroissant peuvent accuser ce genre de repli sur soi en disant, voilà, je vais prendre soin du moi et puis tout ira mieux. Tu trouves cette charge pertinente?
Encore une fois, on va arrêter de parler de collapsologie parce que je ne fais pas de procès, je m'en fiche. Encore une fois, il se trouve que ce message est passé par cette voie-là. Dans ma critique, j'énonce que la compatibilité d'un message terrible avec ce marché-là, entre guillemets, c'est parce qu'il y a certainement une accointance très spontanée entre le récit collapsologique, pour reprendre le mot, je suis coincé, je suis obligé de l'utiliser, et une forme de marketing du bonheur qui est intrinsèque au fonctionnement de nos sociétés. Je ne vois pas de différence conceptuelle entre le mariage très hasardeux entre le terme collapsologie et bonheur et les préconisation de marketing qui associe des angoisses terribles quand on vend une voiture, c'est-à-dire que l'accident, c'est le truc qui va arriver forcément parce que c'est ça le message sous-jacent de la publicité. Donc, il faut absolument que vous achetiez un SUV pour être en sécurité. C'est ça le marketing émotionnel. Pour moi, paradigmatiquement, je ne vois pas de grande différence. Et du coup, ça marche. On vend beaucoup de collapsologie, on vend beaucoup de SUV parce que le schéma émotionnel qui permet aux gens de s'approprier le message, il fonctionne très bien. Il fonctionne très bien.
Absolument. Et pour le casser, du coup? Enfin, je ne dis pas que tu es un docteur, j'ai l'impression de te demander. Donne-moi une façon de faire, mais il n'y en a pas. Il y a quand même cette idée de préparer émotionnellement, je crois qu'aussi au cœur de ton association ou d'une association dont tu fais partie qui s'appelle Adrastia, de préparer l'humain émotionnellement au défi qui l'attend. Et là, quel chemin tu prends pour ce faire?
Alors, justement, il y a une autre différence de ma posture et d'ailleurs de la posture d'Adrastia, des autres postures qui sont présentes dans le paysage, c'est que ni Adrastia ni moi, nous nous considérons comme prescripteurs.
Non.
Et c'est fondamental, je pense, pour parler d'un sujet aussi grave et surtout pour lequel personne aujourd'hui ne sait quelle est la bonne stratégie.
Y a pas une, voilà, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, il n'y a pas une ordonnance définitive. Voilà, prenez ça, faites ça, et puis ça ira beaucoup mieux, vous risquez plus rien. Et vous prétendez évidemment pas faire ça.
C'est plus que ça, c'est qu'on se l'est interdit au départ.
Bien sûr.
Ça n'empêche pas chacun, membre d'Adrastia ou moi-même, de trouver sa voie, sa stratégie et éventuellement d'en parler autour de lui pour voir dans quelle mesure c'est pertinent. Mais passer le cap de devenir prescripteur, c'est extrêmement hasardeux, voire risqué. Et,
sectaire, on pourrait après...
Je ne voulais pas utiliser ce terme, mais...
Mais des fois, on les entend dans ce genre de mouvement qui essaye quand même de chercher quelque chose de différent et du coup s'éloigne des principes, je dirais... accepter, c'est tout de suite de dire voilà, regardez, c'est un clan, c'est une secte, entre eux, ils se disent des choses qu'on ne comprend pas, etc. Donc c'est aussi un argument facile pour décrédibiliser ce qu'essayent de faire différemment. Quand même.
Précisément, Adrastia s'est prémuni de ça dès son départ, dès sa création, en s'interdisant toute forme de prescription qui aurait été. Voilà, aujourd'hui, toute la presse parle d'adepte de la collapsologie. Bah, c'est très dommageable pour l'ensemble du sujet.
Effectivement.
En fait.
Ok. Alors du coup, pour revenir sur ce défi émotionnel, même si tu n'as pas une prescription à faire, quel chemin te semble le plus intelligent à prendre pour grandir en conscience par rapport justement à cette dichotomie entre la nature et son idéalisation et la réalité d'une certaine manière ?
Je ne pourrais parler qu'à titre personnel, là, nous sommes bien d'accord, et du coup je n'ai aucune idée de savoir si ce que j'ai vécu moi et ce que je vis encore aujourd'hui est généralisable. Moi, ce qui s'est imposé dans ma vie et que je n'ai même pas choisi, c'était que la seule façon que je trouvais pour me rassurer et aller mieux sur le plan émotionnel, c'était de me confronter le plus durement possible à la réalité brute et d'aller la chercher dans sa plus grande nudité. Voilà, c'est-à-dire regarder, reconstruire toute la chaîne de causalité que je serais capable de vous redonner là en quelques mots, qui fait que ce que je dis actuellement là nécessite la circulation de photons et d'électrons dans tous les objets technologiques autour de nous, qui sont nécessairement connectés à un système complexe qui a une puissance désormais mondialisée de destruction. Dans lequel je suis un acteur conscient et volontaire. C'est-à-dire que j'ai accepté de venir faire cette interview-là aujourd'hui, en ayant pris le train d'ailleurs, c'est-à-dire en ayant ajouté ma part de destruction de l'avenir. C'est extrêmement difficile à encaisser, mais c'est ce qui, moi, m'a rendu, je pense, compatible émotionnellement avec ce qui est sûr pour moi, c'est-à-dire un avenir contraint. Un avenir contraint, ça veut dire que chaque jour qui passe... Mon existence et celle de tous ceux que j'aime autour de moi, c'est la spoliation d'une potentialité d'existence pour quelqu'un demain. Et c'est extrêmement dur à encaisser au départ, mais c'est ce qui me permet d'échanger et d'interagir honnêtement avec mon prochain. Et de lui dire, aujourd'hui, chaque fois que tu fais un choix, tu arbitres entre ce qui... d'ailleurs, on retrouve exactement en fait, le schéma des chasseurs-cueilleurs qui, eux, ont vécu 99% de l'histoire de l'humanité et pas nous. Nous sommes une virgule dans cette histoire-là. À chaque fois qu'ils considéraient un arbitrage, ils se demandaient s'il était bon pour le long terme, c'est-à-dire pour leur descendance, ou pour leur survie à court terme. Et... On peut lire Clastres, on peut lire Salins, on peut lire les anthropologues d'obédience anarchiste qui ont étudié comment et pourquoi ces sociétés-là empêchaient la concentration du pouvoir, empêchaient la concentration de richesses, empêchaient la surproduction, l'accumulation de biens, etc. Et ces schémas de vie, c'était la façon qu'avaient ces individus et ces communautés de s'inscrire dans le temps long en étant... D'ailleurs, dans le récit, sur de pouvoir communiquer longtemps avec leurs descendants. Donc moi, si je veux communiquer longtemps avec les descendants de l'humanité, je dois pouvoir m'inscrire aujourd'hui comme étant celui qui a fait des arbitrages en son nom au titre de cette descendance-là. Et si je veux faire des arbitrages honnêtes, je dois intégrer que mon existence à chaque seconde, c'est un peu de pétrole en moins pour des personnes demain. Sinon, je suis malhonnête envers mes descendants. Mmh. Les descendants, j'ai pas d'enfants, mais envers les descendants de l'humanité. Évidemment, encaisser ça tout jeune, comme je l'ai fait il y a plus de 20 ans maintenant, émotionnellement, c'est pas évident. Mmh. Mais je n'ai pas trouvé... Enfin, en tout cas, chez moi, c'est ce qui a été le plus stabilisant.
Mmh, d'accord. Justement, ça, c'est intéressant. Tu dis, il y a une vingaine d'années, il y a eu un moment, Eureka, un moment où tu t'as pris conscience de ça, ou c'est quelque chose de graduel? Là, je dis ça aussi, Pama, parce que je pense que, finalement, cette intégration de la réalité, elle sera contrainte et forcée. Donc, tout le monde, d'une certaine manière, sera amené à faire ce chemin-là, vraisemblablement. Tu l'as vécu comment, toi? C'est arrivé comme ça, tout d'un coup, ouais, c'est bon, tu as connecté les pièces du puzzle, puis tu t'es dit, bon, c'est ça, ou c'est gentiment quelque chose qui est venu, puis du coup, tu as pu gérer une étape après l'autre? Parce que quand tu parles, j'ai l'impression que j'ai pas encore cette réalisation profonde. J'ai bien cette impression de choses qui collent pas, mais j'ai effectivement presque une idéalisation de l'effondrement en disant, ben, je sens qu'il y a tellement de gens qui souffrent actuellement, que finalement cet effondrement, ben, ce sera, mais sans savoir exactement ce que ce sera, ce sera une remise à zéro, un équilibrage, et puis une opportunité nouvelle, si tu veux. Et c'est aussi une vue un peu idéalisée, probablement occidentale, hein, de ça. Donc tu vois, il y a deux questions là.
Je vais commencer par la deuxième. Est-ce que dans mon message, tu as entendu que j'idéalisais de quelque façon que ce soit une forme de contrainte, de rupture, d'effondrement?
Non.
D'accord.
Non, pas chez toi. Non, je parlais au monde.
Très bien.
D'accord. C'est la mienne.
Oui,
c'est ma perception. Parce que justement, ça me fait réfléchir à ça parce que je sens pas du tout ça chez toi. Non.
Eh ben, en effet, et c'est même quelque chose qui... c'est un besoin d'imaginer que quelques ruptures qu'il puisse exister, ça ira mieux après. Enfin,
oui, c'est ça. Donc c'est cette différence légitime que je sens entre ma perception et celle que tu racontes, que je me rends compte qu'effectivement, j'aurai du chemin encore à faire. Et du coup, ça m'appelle en me disant, mais alors en fait, quand tu as vraiment réalisé ça, comment tu as géré, ou comment ça est arrivé dans un premier temps? Et comment tu as géré?
C'est pas arrivé du tout subitement. Mmh. Je pense que c'est c'est un long processus de réalisation. Et je me suis aussi stabilisé parce que j'ai pu sortir. Alors je vais parler de sidération, mais ça n'a pas de sens parce que ça s'est passé sur plusieurs années. Donc je suis pas resté en sidération plusieurs années. Mmh. Malgré tout, il y avait une part de moi qui restait interpellée en permanence par cette question-là. Et si cette part de moi était restée interpellée en permanence par une forme d'angoisse de l'avenir, sans retrouver du sens, je pense que j'aurais pu me décomposer et ne pas être là aujourd'hui, psychiquement. Mais justement, pour redonner du sens à ce constat terrible que l'existence aujourd'hui d'un occidental, c'est la spoliation de l'avenir de quasiment tous les humains, voire d'une bonne partie du vivant sur la planète. Mmh. Eh bien, il a fallu, ou plutôt, j'ai développé une forme de thérapie personnelle, on va dire. J'ai écrit, j'ai composé ce que je pensais, moi, être justement le sens du monde, le sens du réel. Alors, je ne vais pas dire ce que j'ai écrit, moi, c'est la vérité, le sens du monde pour tout le monde et de façon universelle et absolue. Je dis, pour moi, c'est ce qui correspond à ce qui me paraît être le plus probable et le plus sensé, le plus... plus pertinent pour comprendre l'ordonnancement des choses. Donc c'est un double mouvement, si tu veux. Quand j'ai réalisé le drame de l'existence, d'une part, j'ai aussi contextualisé ce drame de l'existence. Et du coup, je ne me suis pas décomposé entre les deux. Voilà. Et encore une fois, je ne parle que pour moi, parce que je ne sais pas dans quelle mesure c'est reproductible ou partageable. Mmh. Éventuellement, ce que je constate, c'est que pour d'autres personnes qui se sont posées des questions proches des miennes et qui ont lu mes travaux, parfois il y a eu convergence, c'est-à-dire qu'ils se sont eux aussi sentis comme recontextualisés eux-mêmes et du coup rassurés et rassérénés. J'ai eu beaucoup de ce type de retours-là. Bien que le sens du monde que je donne soit assez froid et assez abrupt. Mais cette forme de confrontation dure avec le réel, ça n'est pas incompatible avec une vie équilibrée. En tout cas, factuellement, c'est certain. Donc, ce qu'il y a de plus délicat avec les émotions, c'est quand elles sont en permanence susceptibles de se convertir en angoisse parce qu'on n'a pas la représentation pour aller avec.
Non.
Et quand on manque de mise en sens pour aller avec. Et ça, c'est très dangereux parce qu'on est fragile tout le temps.
Absolument. Il y avait une des conférences aussi où je t'ai entendu reprendre un chiffre qui, pour le coup, m'a inquiété. Quelqu'un qui disait qu'en 2100, sur la Terre, il y aurait probablement plutôt 1 milliard de personnes, non pas 8 milliards.
Bah, c'est pas quelqu'un,
Ok,
c'est quelqu'un qui
reprends
est
cette
passé
donnée.
sur devant ce micro, c'est Dominique Bourg qui dit ça à la lecture des mêmes lectures, enfin à la lecture des mêmes articles que moi. Hein. Okay, oui, pardon, mais du coup je précisais d'où venait cette info parce que Dominique Bourg est
Je crois
plutôt
pas qu'on
quelqu'un.
en avait parlé de la chute démographique à court terme.
Et donc voilà, Dominique Bourg dit ça, mais quelle est ta question? Parce que personne ne peut dire de façon factuelle et certaine
Mais je crois que
aujourd'hui.
tu l'avais repris. Donc ma question là, c'est est-ce que effectivement, selon tes travaux, tu corrobores ou tu dis c'est hautement probable
Alors, moi, je suis incapable de dire à la fin du siècle, il y aura 1 milliard de personnes plutôt que 12. Je ne fais que lire la littérature et du coup, je lis la littérature, pas celle de l'ONU. L'ONU a des façons d'estimer la démographie de l'avenir, toutes choses égales par ailleurs. C'est ça, ses modèles, en fait. Donc, elle prend l'état des lieux de la démographie à un temps donné, elle remonte sur quelques années, et puis elle prolonge les courbes. Et ces estimations-là sont fondées sur les modèles économiques néoclassiques qui ne tiennent pas compte des limites des ressources, etc., tout ce qu'on sait déjà. Alors que les modèles du rapport Meadows font des estimations en prenant en compte les limites des ressources, en particulier la baisse des rendements agricoles. Les modèles de climatologie aujourd'hui le font aussi. Les agronomes sérieux aussi comprennent déjà que les rendements agricoles sont impactés et qu'en plus les catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes non seulement impactent les rendements, mais en fait ruinent des agricultures totales sur une année complète. Donc oui, le risque fort est que la démographie passe à un sommet, un plateau, au cours des 20 prochaines années, 30 prochaines années, et qu'ensuite on observe un déclin systémique et irrécupérable parce que la planète, on a trop dépassé la capacité de charge et qu'elle ne se reconstituera plus, cette capacité de charge. En tout cas, selon nos critères. Si vous voulez, si tu veux, si on tient compte des paramètres aujourd'hui mesurés, et qu'on les prolonge en tenant compte de l'activité économique et même en idéalisant l'adaptabilité de l'humanité qui réduirait drastiquement les émissions de CO2. Aujourd'hui, le niveau d'acidification de l'océan, la température augmentante pour les quelques décennies qui viennent, l'ensemble des pollutions diverses et variées, mais en fait, ne serait-ce que ces deux paramètres, l'acidification des océans et le réchauffement climatique, pourraient à eux seuls, utiliser beaucoup, beaucoup de conditionnels, pourraient à eux seuls être si graves que ce qui s'appelle des puits de carbone serait impacté au point que la planète, la biosphère, ne pourrait plus se restabiliser sur le plan climatique avant un petit moment et rentrerait dans un système chaotique qui s'auto-entretiendrait avec des boucles de rétroaction positive, fond du
J'en ai parlé.
permafrost, des déforestations, etc. Donc les puits de carbone, non seulement ne seraient plus efficaces, mais en fait, toutes les terres deviendraient émettrices de carbone. En fait, c'est même déjà observé, y compris dans des milieux forestiers, y compris en Amazonie. C'est-à-dire que les terres, l'Amazonie n'est plus un puits de carbone. On le sait aujourd'hui, c'est mesuré. Donc si l'Amazonie elle-même n'est plus un puits de carbone, on est déjà en 2020 rentré dans un système potentiellement qui va auto-entretenir son chaos. Là où je voulais en venir, c'est que si on prolonge ça et qu'il n'y a pas de miracle au cours de ce siècle, l'évolution de la biosphère au cours des centaines d'années qui viennent, c'est le risque, encore une fois beaucoup de guillemets, que la biosphère ne soit plus capable de supporter la vie des animaux de plus de quelques kilos, pour des raisons de production de matière organique, de circulation de calories dans la chaîne trophique. C'est tout. Et ça, c'est pas des estimations en l'air. Ce sont les pires estimations, évidemment. C'est les scénarios les plus ennuyeux. Mais c'est des scénarios qui sont comparés avec les extinctions de masse précédentes, qui, elles, se sont jouées sur des paramètres comparables, les émissions de CO2, les trappes de Sibérie qui ont brûlé des hydrocarbures, en fait, du charbon et des gaz et du pétrole qui étaient dans le sol, voilà, du volcanisme qui a brûlé du CO2, qui a fait que le CO2 a été émis. Les océans se sont acidifiés, le climat s'est réchauffé, et puis bah voilà, il a fallu des millions d'années, littéralement, pour que la faune se reconstitue, ne serait-ce que partiellement. Et en attendant, bah, il ne restait plus que des organismes de quelques kilos, pour les plus gros. Ça ne veut dire pas nous, en fait, hein, vous voyez, c'est ça le risque. Donc là, on est, je recadre, hein, on est dans de la spéculation, on est sur du moyen et du long terme, mais c'est compatible avec ce qui est connu. Et c'est par ailleurs, bah voilà, ce que dit Dominique Bourg avec 1 milliard d'humains à la fin du siècle, on est dans ce registre-là.
Il y a cette notion compétition versus coopération que je veux aussi traiter un petit peu avec toi, parce que là, on voit aussi des fronts idéologiques qui s'opposent. Maintenant, on est plutôt dans un monde où on met la compétition comme, comme valeur fondamentale pour évoluer, innover et progresser. Et on comprend qu'il y a ce discours maintenant un petit peu idéalisé de nouveau, de regarder la nature, elle est coopérative. Et puis du coup, c'est un peu cette économie, faut-il être en compétition, en coopération? Certainement un peu les deux, hein, d'après ton discours à toi. Voilà, je te laisse la parole là-dessus.
Alors, ben, faut-il déjà, on va le mettre entre parenthèses. Mais là, on est vraiment dans un point extrêmement critique des constructions conceptuelles du monde occidental. Quand on joue au football... Je joue pas au football, hein, mais quand on est footballeur et qu'on participe à une compétition de football, on participe à une compétition de football. La compétition, c'est le cadre dans lequel le jeu va se passer, avec ses règles. D'accord ? On joue à tant de nombre de joueurs sur un terrain de telle surface et on ne doit pas faire des tacles à son adversaire. D'accord ? Il y a des tas de règles. D'accord ? On joue avec un ballon rond, pas avec un ballon ovale. Il y a des tas de règles. Ça, c'est le cadre de la compétition et tout le monde le respecte. D'accord. Dans ce cadre, les stratégies que mettent en place les différentes équipes sont à la fois coopératives et rivales. Alors coopératives, parce qu'une équipe de foot c'est coopératif, sinon ça marche pas. Mais c'est rival avec l'équipe adverse, évidemment. Donc on a toujours la coopération et les effets de la coopération qui sont la rivalité. Et par ailleurs, en interne d'une équipe de foot, les nombreuses années de sélection des joueurs font que les joueurs eux-mêmes en interne pour faire l'équipe coopérative idéale ont été en rivalité. Évidemment. Ce que je viens de dire est la reconstitution de ce que nos philosophes, moralistes, politiciens, penseurs du monde occidental ont travaillé totalement inconsciemment, mais ont travaillé ardemment à déconstruire pour que nous nous retrouvions avec une assimilation, une absorption du cadre, donc la compétition, avec la stratégie de la rivalité. Pourquoi ? Parce que conceptuellement, on se retrouvait à opposer le cadre, qui disparaissait en fait, avec la coopération. Donc le cadre n'existait plus et on oubliait la rivalité. Ou plutôt, elle était assimilée à la compétition. Mais l'intérêt conceptuel pour les Occidentaux, c'est qu'il n'y a plus de cadre. C'est de la magie en fait. Cette absorption du sens, ce tour de passe-passe sémantique, de faire passer le cadre de la compétition pour de la simple rivalité, a permis, à mon sens, d'inventer la notion de liberté. Factuellement, d'inventer ce qui vient se placer à la place du cadre qui a disparu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règles, et les Occidentaux font ce qu'ils veulent. Et en plus, ils vont politiquement, moralement et concrètement sur le terrain, voire jusqu'à légitimer des guerres, défendre la liberté.
Au nom de la liberté, voilà.
Les Occidentaux ont travaillé et se sont développés au nom de la liberté et ont totalement oublié qu'il y avait un cadre. Un cadre naturel, des autres humains, des limites physiques, des êtres vivants, enfin tout ce qu'on a dit déjà. Et aujourd'hui encore, je suis navré de revenir encore sur la collapsologie, mais la collapsologie elle-même écrit des choses qui sont totalement imprégnées de ce cadre culturel ontologique de l'Occident, sans à aucun moment le réformer. C'est-à-dire que l'Occident promeut la compétition et l'individualisme, certes, mais en ayant à visibiliser qu'en fait, la compétition, c'est le cadre et pas une stratégie. Et comme réponse, dit, ben, on va être coopératif et on va faire de l'entraide. Sauf que, comme l'entraide n'est pas l'inverse ou l'opposé de la compétition, c'est le même schéma d'invisibilisation du cadre. Et comme si, en fait, on pouvait faire de l'entraide et que c'était forcément bien parce que c'est affranchi de toutes les règles qui régissent les interactions entre les communautés. Si on reconstruit... on va dire le triptyque compétition, cadre, rivalité et coopération, on se retrouve à la réalité de l'application de la rivalité et de la coopération, qui est qu'à chaque fois qu'on coopère, on se dessine un monde rival. Systématiquement.
Mais plus large.
Ah bah, à chaque fois que deux personnes coopèrent, elles le font pour... Alors, précisément, je vais... Le point qui a été invisibilisé par l'assimilation, l'absorption, compétition, rivalité, c'est que... Là où c'est très commode, c'est que on permet d'enlever toutes les scories un peu gênantes que sont, par exemple, les limites. Et ça permet aussi à la coopération de se dire, mais quand on coopère, il n'y a pas de cadre non plus, puisqu'il il n'existe pas pour lui non plus. Il n'existe pas non plus dans la stratégie de coopération. Et il se trouve que le paramètre qui fait que le vivant est hyper coopératif, pourquoi le vivant est hyper coopératif ? Parce que ça lui permet d'optimiser la capture d'énergie et de ressources. C'est pour ça que le vivant est très solidaire avec lui-même. C'est pour cette raison-là, ce n'est pas finaliste mon propos, mais c'est parce que stratégiquement, pour que de plus en plus d'êtres vivants puissent être nourris et capturer de l'énergie, ben le vivant est devenu hyper complexe et a constitué des chaînes, des chaînes trophiques hyper riches, etc. Donc la coopération du vivant a simplement optimisé la capture d'énergie et de ressources. Donc,
c'était juste une stratégie, là.
Bah, c'est une stratégie adaptative. En fait,
dans un cadre, pour le coup.
Dans le cadre de la compétition pour l'existence. Le vivant, la sélection naturelle, a fait que tous les organismes qui coopéraient le mieux pour capturer le plus d'énergie ont gagné. Et ce qui a enrichi progressivement la complexité du vivant. C'est ça l'évolution. Et donc si on transpose la coopération du vivant, mais sans dire que ça sert à capturer l'énergie et les ressources, et qu'on dit bah, si les humains coopèrent, c'est formidable, bah, en fait les humains, c'est l'espèce la plus coopérative et la plus efficace pour capturer l'énergie et les ressources. Ce qui fait que, vous voyez, qu'en remettant les concepts au bon endroit, on peut rappeler tous les travers de la société, et en particulier un truc que personne ne dit et qui est pourtant factuel. Le modèle politique, économique et social qui est le plus coopératif que l'humanité ait inventé de toute son histoire, c'est le capitalisme. C'est le modèle qui a permis de capturer le plus d'énergie et le plus efficacement, et de la partager avec le plus d'humains de toute l'histoire de l'humanité. Et on n'a pas du tout cet imaginaire-là. Le capitalisme, c'est immédiatement associé au libéralisme, à l'individualisme, à la pression exercée à l'accaparement, etc.
D'une minorité sur les majorités.
Etc. Parfaitement.
Donc, aucune redistribution.
Alors que factuellement, c'est ce modèle économique-là qui nous a fait passer de 500 millions à 8 milliards. En tant qu'outil, en tant que moyen. Et alors là, c'est embarrassant parce que en déconstruisant les cadres des modèles politiques d'aujourd'hui, ou ce que les modèles politiques aujourd'hui pensent être leur cadre de fonctionnement, on constate, enfin, on peut faire un diagnostic de leur totale inopérabilité en monde contraint, puisque le cadre n'existe pas. Ils n'ont pas intériorisé les limites conceptuellement, paradigmatiquement. Donc toute cette déconstruction-là que je viens de rappeler est absolument nécessaire pour tous ceux qui vont faire de la politique en monde contraint. Ce que d'ailleurs commence à faire très bien Jean-Marc Jancovici. À chaque fois qu'il parle de l'adaptation au monde de demain, c'est dans un monde contraint en prenant en compte les limites.
Oui, très intéressant aussi voilà. Jean-Marc.
Bien sûr.
Jean-Marc, si tu nous regardes, tu as une place ici volontiers. Ok, donc au niveau des modèles politiques, on a parlé de décroissance. Donc transhumanisme, un petit mot là-dessus. Est-ce que pour toi, ça peut être une voie intéressante à suivre ?
Pour quelle raison ?
Non, juste pour qu'on l'élimine, là, ah pour oui. le coup.
c'est
close le sujet.
En fait, la question n'est pas celle du transhumanisme, mais la question, c'est celle des récits. Parce que c'est un récit, c'est pas autre chose.
Qui vise à se rassurer, probablement.
Mais justement, précisément, c'est... Alors là, si on rentre dans la question du transhumanisme et des récits, on va immédiatement convoquer la longue histoire des récits de la vie éternelle, qui ont, en fait, cette histoire-là...
L'immortalité,
oui. Bah oui. Cette question de l'immortalité est probablement aussi ancienne que le langage, puisque on a des traces de récits qui ont été étudiés par Jean-Loïc Lequelec, moi, des choses qui me fascinent, et qui me façonnent aussi, du coup. J'ai failli faire le lapsus, parce que ça façonne ma pensée, clairement. Ça fait au moins 30 000 ans que l'humanité se raconte la vie éternelle par le truchement de plantes qui ont des vertus magiques.
Oui.
Voilà, on trouve ça dans
L'alchimiste aussi qui veut transformer.
l'alchimiste, on trouve ça dans l'épopée de Gilgamesh, on trouve ça
Oui.
dans la Bible, on trouve ça dans tous les récits. Donc là, en fait, le transhumanisme, on a l'impression que c'est une construction moderne ou un nouveau cadre conceptuel et de nouvelles promesses, mais il n'y a rien de plus il y a rien de plus archaïque, en fait. Et
Oui.
archaïque au sens presque péjoratif, c'est-à-dire que c'est... Alors,
Au
précisons
sens
quand
que
même que le
oui.
transhumanisme, c'est une diversité de pensées, hein. Il y en a
OK,
de
ouais.
beaucoup moins naïves que d'autres, et certaines qui sont des forces de proposition presque entendables, je dirais, dans un monde contraint, mais je supposais que que ta
Oui,
question...
elle est de l'ordre de la compréhension populaire du
Voilà.
transhumanisme, c'est-à-dire le scientisme et l'immortalité.
Et cette acception-là du transhumanisme est effectivement aussi archaïque qu'inopérable. Enfin, voilà, il n'y a rien de nouveau et aucune promesse qui soit tenable.
Alors, il y a aussi l'idée de l'anarchisme qui peut sembler intéressant en termes de structure. Ça dépend comment on l'entend aussi, parce que j'imagine que là, c'est encore plus vaste, les courants anarchistes qu'on pourrait essayer de commencer à qualifier. Mais essayer de s'affranchir des structures de pouvoir que l'homme a créées. Pourquoi exactement? Quelle est ta position justement sur l'anarchisme?
Alors, c'est à la fois une
Comme
pensée.
réponse, hein, pardon, l'anarchisme comme
Oui,
réponse à la
l'archive,
situation.
entendu. C'est à la fois une pensée que je respecte beaucoup, que je lis de plus en plus, parce que je pense que c'est une pensée dont l'intention diagnostique et critique est extrêmement fertile. C'est-à-dire que c'est en lisant la pensée anarchiste qu'on traverse tous les biais de fonctionnement, tous les travers du système normal, entre guillemets. Parce que les penseurs anarchistes sont hyper vigilants et hyper critiques. Et donc c'est vraiment passionnant et fascinant. Pour autant, je ne crois pas que l'anarchie soit un modèle de substitution pour la raison suivante, qui est relativement simple, mais difficile à entendre, je crois encore. C'est que si on reprend à la fois l'étymologie du terme, l'intention générale et la construction naturaliste, on y revient encore, c'est-à-dire l'idée que l'humain soit capable de se raconter des récits, que ces récits soient cadrants par eux-mêmes, et qu'en les appliquant, on trouve des solutions. En fait, l'anarchie n'est pas un récit ancestral, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je pense que c'est un récit assez moderne, et qui est fortement lié à l'existence de cadres qui viennent pallier, à mon sens, une vacuité dans le modèle anarchiste, ou un impensé dans le modèle anarchiste, qui est le suivant. Et encore une fois, je pense que c'est aussi une projection de penseurs occidentaux sur le fonctionnement des sociétés anciennes. Et les sociétés anciennes, et a fortiori quand on remonte le temps, les sociétés animales, à aucun moment ne se sont extraits de formes de hiérarchie dans leur organisation. La grande différence entre les hiérarchies auxquelles se soumettaient, on va dire, les chasseurs-cueilleurs, et auxquelles se soumettent les sociétés dites modernes ou complexes ou occidentales, c'est que pour nos sociétés, les hiérarchies sont internes, les structures de pouvoir sont internes, les structures de gouvernance sont internes, et on l'a dit, il n'y a pas d'extérieur, puisque de toute façon, il n'y a pas de cadre. Dans le vivant, en fait, aucun animal, aucun être vivant n'est affranchi d'une ce qui s'appelle une pyramide écologique, en
Du
fait.
cadre.
Du cadre d'une part, mais d'une forme de hiérarchie et sur un critère très précis qui est la distribution de l'énergie. Et en fait, un écosystème, même quand il y a des chasseurs-cueilleurs dedans, hein, c'est des végétaux qui capturent l'énergie du soleil, qui sont mangés par des champignons, des insectes, puis des animaux plus grands qui sont mangés par des animaux plus grands, et jusqu'à arriver aux chasseurs-cueilleurs. Et ensuite, il faut se rappeler qu'en fait, jusqu'à très tard, les chasseurs-cueilleurs étaient aussi régulés par des prédateurs. Donc en fait, jusqu'à très tard, les chasseurs-cueilleurs ont fait partie d'une hiérarchie causale de distribution de l'énergie qui fait qu'il y a un ascendant dans la capacité d'influence qui provient d'un extérieur qui est celui qui donne accès à l'énergie. On n'a pas cette impression-là quand on parle des chasseurs-cueilleurs. Mais pourtant, si leur population était régulée pendant des milliers, des dizaines de milliers d'années à 1 million, puis 5-6 millions, ben, oui, 5-6 millions au maximum jusqu'à l'agriculture, c'est parce qu'ils étaient totalement inféodés à une distribution hiérarchisée pas sur le plan moral, hein, mais sur le plan causal de l'énergie, depuis les plantes jusqu'au dernier des prédateurs, avec une division par 10 de la quantité d'énergie transmise à chaque couche de la chaîne trophique, à chaque strate de la chaîne trophique. Nous, dans nos mondes à nous, nous avons intériorisé la hiérarchie et l'énergie vient marginalement de l'alimentation qui coûte presque plus rien et vient essentiellement du pétrole qui coûte rien non plus. Mmh. Donc, on n'a pas du tout l'impression d'être inféodé à des hiérarchies.
Non, tout à fait. Je crois que c'est 6% maintenant en Suisse, le budget utilisé pour se nourrir.
Oui, c'est rien du tout.
Alors que nos parents, grands-parents, ils étaient plutôt à un tiers, voire... Enfin, nos parents à un tiers, peut-être. Oui. Enfin, il y a une génération en arrière, un tiers, et puis deux générations en arrière, c'était 50% ou plus.
Absolument, et c'est parfaitement notable, d'autant plus en Suisse, parce que votre histoire, c'est comme ça. Vous êtes passé très rapidement d'un monde agricole et d'éleveurs à un monde, on va dire, d'industrie, ou à un monde de profit, de richesse, un monde capitaliste. C'est fait en 150 ans, c'est vraiment une des évolutions en Europe les plus rapides. Donc vous avez encore souvenir, et non, c'est notable parce que je sais que dans votre culture, vous avez encore souvenir d'une contrainte qui était oubliée depuis plus longtemps, en fait. Dans d'autres pays comme la France, il y avait beaucoup plus, il y avait encore beaucoup plus d'agriculteurs chez vous, alors qu'il y en avait beaucoup moins chez nous. Bref. Donc tout ça pour dire que si on regarde les systèmes vivants et les systèmes humains, à aucun moment il n'y a absence de hiérarchie. Et les modèles anarchistes sont fondés sur l'espérance qu'on pourrait s'en affranchir, mais en fait, ils ont le même biais d'interprétation qui est qu'il faut distribuer de l'énergie, des ressources qui ne viennent pas de nulle part.
Ok. Je pense qu'il y a plusieurs courants. Moi, c'est le courant anarchiste est plutôt Chomsky, qui dit ben voilà, s'affranchir des structures de pouvoir ou des hiérarchies qui ne se justifient plus.
Oui.
Donc ça veut dire qu'il y a toujours, il y a toujours cette possibilité qu'effectivement il y en ait qui puissent se justifier, mais que la plupart elles sont plutôt construites et que c'est celles-là qu'il faut éliminer. Et d'ailleurs j'en profite juste avant de la dernière fois qu'on a fait un podcast, j'ai fait un amalgame et mea culpa, j'ai utilisé anarchie pour chaos. Et évidemment, j'en pense pas moi, mais des fois dans le langage, on a des biais comme ça. Et puis du coup, j'ai dit anarchique pour signifier en fait chaotique. Alors qu'en fait, je ne crois pas du tout que les deux soient liés.
Très bien.
Je voulais juste faire ce petit aparté.
C'est utile en effet. La question de l'anarchie chomskyenne est majeure, parce que c'était effectivement mon déroulement logique. On pourrait très bien imaginer qu'on fasse tomber les hiérarchies ou les structures de pouvoir non légitimes ou qui ne sont plus justifiées, mais ça n'est pas retomber sur l'absence de hiérarchie. Ça veut dire se réinscrire progressivement sans accès à la structure de distribution des ressources faite par l'ancienne hiérarchie qu'on pourrait dire injustifiée, et c'est devoir se reconfigurer pour capturer l'énergie et les ressources dans un milieu où la hiérarchie c'est celle du vivant. C'est donc une régulation. Et c'est là où une forme de naïveté interprétative de l'anarchie est projetée sur les mondes anciens, c'est qu'on peut très bien imaginer que l'humanité passe à un modèle de hiérarchie. Dans ce cas-là, les structures de pouvoir nécessaires à la capture d'énergie dans le milieu se réintègrent dans la chaîne trophique naturelle, qui est d'ailleurs largement impactée pour le 21e siècle, où la distribution de l'énergie, s'il n'y a pas une agriculture massivement industrialisée, est remise en question très largement. Donc se réinscrire dans les hiérarchies naturelles, c'est impacter en soi, à mon sens, la démographie. C'est insécuriser, en fait, la communauté. L'exemple assez dramatique qu'on observe aujourd'hui, actuellement, dans l'actualité, même si on n'en parle pas tous les jours parce que c'est bousculé par d'autres événements, c'est la fin du soutien des États-Unis il y a quelques mois aux communautés du Rojava, en Syrie du Nord. Donc, on a une communauté qui
politique... Le Kurdistan, enfin, c'est
ouais,
les Kurdes.
Oui. On a une communauté qui a, de façon extrêmement courageuse, velléitaire et volontaire, tenté de construire un modèle plus horizontal, une gouvernance partagée, plus résilient.
Plus égalitaire avec les femmes.
Exactement.
Femmes, par exemple.
Et c'est parfaitement vertueux. Et je défends ça sur le plan moral. Simplement, étant donné qu'à mon sens, conceptuellement, la notion de nécessité de la hiérarchie en fonction de la quantité de personnes à nourrir et à défendre fait que ces modèles politiques-là, en fonction du contexte, se rendent dépendants de hiérarchies qui assurent leur défense.
À savoir les Américains qui les ont lâchés.
Ce qui a fait que, étant donné qu'ils ont considéré que la hiérarchie était intrinsèquement révocable, sans considérer qu'elle est totalement lié au système de défense, fait qu'aujourd'hui, pour simplement survivre, d'abord, ils continuent à faire la guerre, et en plus, ils sont obligés de faire des compromis avec d'autres hiérarchies que sont celles de Bachar al-Assad et celles de Poutine.
Et d'Erdogan aussi.
Et d'Erdogan. Donc, ils sont, de toute façon, obligés de considérer les hiérarchies dites, je ne vais pas dire naturelles, mais contextuelles. L'anarchie en tant qu'absolu, à mon sens, n'est quelque chose qui n'a jamais existé, même dans le vivant. Il faut à un moment donné une entrée dans le système de moyens et de ressources pour que le système qu'on veut constituer puisse assurer trois choses que j'ai dites au tout début de l'entretien, alimentation, santé et sécurité. Mmh. Si votre contexte est un contexte de fragilité sécuritaire, comme le Rojava, et que vous n'avez pas les structures de pouvoir qui sont capables d'assurer cette sécurité-là, vous êtes inféodé aux structures de pouvoir extérieures qui constituent une hiérarchie que vous ne voulez pas et dont vous dépendez totalement.
Mmh, wow. Alors, plus ou moins de démocratie. Ça dépend du contexte.
Ah oui. tu m'emmènes loin, pardon.
C'est le but.
J'ai du mal avec ce vouvoiement et ce tutoiement, mais...
Ouais, c'est pas grave,
t'inquiète
pas.
En plus, j'ai tendance
t'inquiète
naturellement pas. À tutoyer, donc je comprends pas pourquoi, mais... La démocratie, encore une fois, c'est quelque chose dont il faut se demander pourquoi on l'observe beaucoup plus fréquemment, en tout cas sous les acceptions qu'on en a, dans des sociétés riches, puissantes, avec des esclaves et de l'énergie à foison. Pourquoi ? Je vais essayer de faire simple. Dans le vivant, encore une fois, les échanges d'informations se font par interaction plus ou moins directe entre les individus. Ils s'échangent tout le temps de l'information, ne serait-ce que parce qu'ils se mangent les uns les autres ou qu'il faut qu'ils se protègent les uns des autres. C'est ça le vivant, en fait. Et troisième information à gérer en permanence, c'est trouver de la nourriture. Et ben, les humains font la même chose. Sauf que, quand on est dans une perspective de croissance et d'affranchissement des limites, de considération que plus on se nourrit, plus on fait que la société croît et est puissante, etc., plus conceptuellement, on a besoin, encore une fois, de s'éloigner de la contrainte. Donc, on a besoin de couper la venue de l'information entre la contrainte et la société. Donc, on ne questionne plus les échanges de flux de matière pour savoir s'il y en a beaucoup ou peu. On va questionner les gens ou les membres de la communauté sur des aspects décorrélés de la circulation du flux d'énergie et de matière. Et on l'a dit, en fait, tout à l'heure. Les démocraties modernes se sont constituées sur des clivages gauche-droite et pas sur des clivages conservatisme ou progrès qui sont des clivages intégrés totalement à la mesure de la ressource. Les démocraties modernes sont, à mon sens, des virtualisations du choix qui facilitent la déconnexion du comportement du consommateur avec la réalité des effets du comportement de son consommateur, parce que les choix qu'on demande de faire aux gens ne sont pas des choix avec leurs euros, leurs francs suisses ou leurs dollars, ce sont des choix avec des bulletins de vote, ou des assemblées, ou des délibérations collectives, des assemblées participatives et tout ce qu'on veut. Ce qui n'est pas directement faire un choix avec son billet, avec son argent. Et ça, à mon sens, c'est un des moyens que les systèmes politiques et représentatifs ont mis en place, totalement inconsciemment, mais de façon fertile, confirmée par le réel, qu'on obtient de bien meilleurs consommateurs si le consommateur ne pense pas aux effets de sa consommation. Et si le consommateur n'a d'autre pensée au moment où il consomme que de se demander quel président il va avoir 4 ans plus tard, 4 ou 5 ans plus tard, et de quel bord, de la gauche ou de la droite, s'il va avoir plus de sécurité sociale ou moins de sécurité sociale, ou des retraites privées ou des retraites d'État. Ça n'a rien à voir, ou quasiment rien, avec la question sur comment mon acte de consommateur dans l'instant influence les retraites que je vais avoir dans 20 ans ou 30 ans.
Tout à fait.
Cette décorrélation-là, pourquoi c'est très important de refaire la description conceptuelle du monde ? Parce qu'aujourd'hui, pour parler de la France, les révoltes et les manifestations contre la privatisation des retraites... C'est le retour du principe de réalité sans comprendre la cause. Alors que la cause de la privatisation des retraites aujourd'hui, c'est que les sociétés privées se sont construites et renforcées en puissance comparée avec les États. Pourquoi ? Parce que les sociétés privées sont beaucoup plus performantes que les États à capturer la richesse des gens. Évidemment. Pendant des décennies et des décennies, une fois que l'État a passé le temps d'État-providence, qui est le début de la construction d'un État, où l'État est très riche, très protecteur, il a beaucoup de ressources, etc. Puis au bon moment, l'État, face au rendement décroissant, se retrouve confronté à des limites. Et du coup, il est obligé de ponctionner de plus en plus les gens pour ne serait-ce que fonctionner et redistribuer. Et ça, les gens ne comprennent pas bien puisqu'ils étaient très bien servis au départ. Par contre, donc émotionnellement, les gens ne comprennent pas pourquoi on va leur prendre de plus en plus d'argent, ne serait-ce que pour gagner le même niveau, garder le même niveau de confort, de sécurité et tout ce qu'on veut. Mmh. En revanche, les sociétés privées, elles n'ont pas à légitimer leur
prix.
Leur prix, d'une part, et puis surtout, elles ne sont pas bridées sur la capacité à jouer avec les émotions des gens. Donc, elles peuvent très bien jouer avec notre striatum et notre sécrétion de dopamine pour nous donner du plaisir facilement avec la canette de Coca qui est devenue rouge. Et bientôt, on aura le slogan Coca-Cola placardé dans l'espace parce que c'est dans les projets de certaines grandes entreprises de faire de la pub dans l'espace. Et donc, tout le temps où les États ont été de plus en plus fragilisés sur la capacité à prendre de la richesse, tout en maintenant un système démocratique qui détourne le fait que c'est la consommation des gens qui décide du modèle politique, fait que les gens n'ont pas vu qu'en achetant à des sociétés privées, ils allaient constituer un modèle politique dans lequel le privé allait devenir un moment
tout puissant
et incontournable, même face aux États. Les boîtes privées aujourd'hui qui sont plus ou moins toutes actionnaires de BlackRock, pour être clair, elles ont toutes quelques pourcents. Les plus grandes boîtes du CAC 40 ont toutes quelques pourcents chez BlackRock.
C'est déjà quoi
C'est le grand consortium d'assurance qui a largement influencé la privatisation progressive des retraites en France. Oui, je ne sais plus ce que je disais, mais on n'a pas vu justement que notre consommation avait rendu cette société-là rivale, pour reprendre le terme que je disais tout à l'heure avec les États, au point, c'est ça que je voulais dire, la consommation des années 70-90, découplée de l'économie parce qu'on avait l'impression qu'on changeait de modèle avec le vote, a fait qu'aujourd'hui le vote est devenu inconsistant face à un changement de modèle qui est dû à un mode de consommation. D'accord ? Et entre les deux, on a eu de la démocratie. Est-ce que j'ai décrit un processus qui paraît extrêmement problématique pour reprendre le pouvoir démocratiquement sur un processus d'autant plus complexe que si la démocratie est faite pour décorréler l'acte d'achat de ses effets sur le monde, eh ben c'est peut-être pas le modèle démocratique qui est le plus pertinent pour retrouver son emprise sur le modèle politique. Alors que les sociétés pré-démocratiques avaient des interactions très directes avec les structures de pouvoir. Les agriculteurs en Chine, pendant des centaines d'années, à chaque fois qu'il y avait un problème de coercition, de pouvoir excessif, de violence, ils arrêtaient de nourrir l'État. Et l'État était fragilisé, et les agriculteurs reprenaient du pouvoir. Et puis une nouvelle forme de hiérarchie se mettait en place, parce que les hiérarchies, c'est quelque chose d'intrinsèque au fonctionnement des sociétés. Je le disais, dans le vivant, il y en a, de toute façon, c'est pas quelque chose qui peut disparaître, je ne crois pas. Mais au moins, le pouvoir de celui qui a une influence sur la captation de richesses de l'État sans être illusionné parce qu'il pense que son pouvoir, c'est un bulletin de vote, et bien là, il a un vrai pouvoir. Donc, oublions la structuration de la démocratie telle qu'on la conceptualise aujourd'hui et réinvestissons ce qu'est, d'une part, l'acte de consommation et, d'autre part, le revenu, ce que veut dire le revenu sur la dépendance au système capitaliste si on ne veut pas du modèle capitaliste. À partir du moment où un revenu arrive sur votre compte, c'est trop tard. Le système capitaliste a déjà été renforcé, quel que soit le mode de consommation derrière. Parce que pour produire votre revenu, il faut déjà que le modèle capitaliste ait tourné et ait produit la richesse. Donc c'est déjà trop tard. Donc en fait, si on veut vraiment réformer le modèle capitaliste, c'est pas la consommation qu'il faut changer, parce qu'il va toujours, sa plasticité est très grande, il va toujours s'arranger pour récupérer la richesse que vous consommez, ne serait-ce que par spéculation ou endettement. Enfin, les façons de le faire sont riches et multiples. Par contre, si vous impactez vos revenus et que cet impact de revenus est à une échelle suffisamment grande, vous impactez les fondements du système, c'est-à-dire le flux capitalistique, le flux de génération de richesse. Évidemment, ce n'est pas un choix à faire à la légère, parce que le premier pays qui s'expose à la réduction de son PIB s'expose aussi économiquement à l'échelle internationale. Donc vous voyez qu'on rentre dans un système extrêmement complexe dans lequel on est à peu près aussi peu capable d'une réforme qu'on est encore sur des fonctionnements conceptuels du passé qui ont été valables et performants en temps de croissance pour que tout le monde y gagne, mais qui sont probablement toxiques en temps de décroissance parce qu'ils sont générateurs de chaos et d'incompréhension. les gilets jaunes et les gens dans la rue pour les retraites, s'ils ne comprennent pas pourquoi les privés aujourd'hui prennent le pouvoir sur l'État et que c'est leur comportement d'il y a 30 ans qui a fait ça 30 ans plus tard, eh ben c'est juste des gens qui perdent des yeux à cause des LBD. Mais ça ne change pas la puissance des États des puissances privées et des sociétés privées. Enfin, c'est... Voilà.
Actuellement, au niveau de l'actualité, on voit aux États-Unis les primaires américaines avec Trump, qui est assez conservateur finalement, ou qui prétend l'être. Et puis Bernie Sanders, qui représenterait alors pour le coup les progressistes et qui propose un énorme plan de Green New Deal pour revoir tout ça. Est-ce qu'il est illusoire et j'ai l'impression que c'est un petit peu la synthèse de ce que tu viens de dire. Est-il illusoire pour toute cette jeunesse d'essayer de porter justement un candidat qui semble être plus démocratique, qui semble être plus concerné par l'état du monde, etc., etc., en sachant qu'effectivement, on ne remet pas en cause l'essentiel.
Ça dépend de quel objectif on a. Et c'est une guerre des récits, en fait. Le récit progressiste, positiviste et écolo-compatible reprendra peut-être le dessus contre des récits populistes et nationalistes. Mais je vous ai dit tout à l'heure que la condition pour que le capitalisme s'applique, c'était que les gens gagnent de l'argent et sauvent leurs petits de la famine. Mmh. C'est pour ça que le capitalisme a été confirmé par le réel. Trump a été confirmé par le réel, c'est-à-dire que factuellement, la croissance a plutôt été bonne aux États-Unis parce qu'il a juste dérégulé l'exploitation du gaz en particulier, et moins de charbon, mais surtout du gaz, et des pétroles, des schistes bitumineux. Donc là, il y a une confirmation du récit par la réalité. Si Bernie Sanders est élu et qu'il n'y a pas confirmation par la réalité parce qu'il prendrait des décisions trop conservatrices, justement parce que, en fait, peu importe le récit, en fait, les décisions qui sont en arrière-plan sont des décisions, s'il veut vraiment faire de l'écologie, il faut qu'il régule, quoi. Hein. Mmh. Alors, s'il le fait vraiment et qu'il régule, eh ben, les gens ne seront pas satisfaits parce qu'ils vont immédiatement avoir moins d'argent. C'est comme ça que ça fonctionne, l'écologie, hein. C'est pas d'autre solution. Et si par contre il arrive à faire croire qu'il est capable de générer, de faire une transition énergétique tout en dissimulant l'appauvrissement du pays, bah, il sera confirmé parce que le récit aura été valide. Mais en fait, je crois que ce débat-là n'a pas beaucoup de sens. On parlait tout à l'heure de l'influence du privé sur les rapports politiques que les communautés ont, sur les rapports politiques que les communautés ont avec leurs gouvernants. Là, en fait, tu me poses la question sur un débat dont on a dit tout à l'heure qu'il était un clivage gauche-droite qui, de toute façon, fait oublier la question du progressisme ou de la croissance ou de la conservation. Et ben, je crois que l'un ou l'autre, dans la mesure où il va pouvoir asseoir le PIB sur une capture de d'énergie importante, ils seront confirmés par le retour de réalité. En fait, je vais vous te dire une anecdote qui est assez intéressante et qui résumera une pensée que j'ai un peu de difficulté à préciser là. Mélanie Klein est quelqu'un qui a pensé les stratégies du choc, la stratégie du choc, qui consiste à déstabiliser un État ou un système. Oui. Afin
de... Shock Doctrine, je crois que le livre il s'appelle.
Voilà.
Je l'ai lu.
Tout à fait. Donc c'est une stratégie qu'elle a parfaitement illustrée, qui montre que ben, voilà, des grandes puissances ont déstabilisé des États pour imposer leurs principes régulateurs à eux, et puis surtout capturer les ressources et spolier tout ce qu'il y avait. Imaginons que Sanders passe et qu'il développe le Green New Deal. Le Green New Deal, il n'y a à peu près pas de développement technologique qui soit plus consommateur de ressources, en particulier de métaux, de cuivre, de terres rares, etc. Puisque cette transition-là, elle est, voilà, par unité d'énergie produite, c'est au moins 10 fois plus concentré en métaux que l'équivalent produit en pétrole. Donc cette transition énergétique, ce qui est juste fou sur le plan de consommation de ressources. Donc imaginez que les États-Unis veuillent faire vraiment cette transition énergétique. Les ressources, il faut que le pays aille les chercher quelque part. Imaginons que pour obtenir ce résultat, il faille prendre les ressources à des pays qui ne veulent pas le faire. Eh ben, il faudra appliquer des stratégies du choc. Parce que si les pays ne veulent pas le faire et qu'on utilise des lois humanistes et démocratiques, eh ben, on va juste respecter leurs décisions. Donc le Green New Deal ne marchera pas. Et aujourd'hui, Mélanie Klein, qui est quelqu'un qui a pensé l'anticapitalisme, se retrouve...
C'est pas Naomi Klein ?
Naomi Klein, Mélanie Klein, c'est la psychanalyste, rien à voir. Naomi Klein, pardon. Oui. A donc, aujourd'hui, se retrouve coincé à dénoncer la stratégie du choc, mais aujourd'hui défend un Green New Deal dont la mise en œuvre ne peut passer factuellement que par la spoliation de ressources à une échelle 10 fois plus grande que le système énergétique des hydrocarbures à des pays, une spoliation à des pays qui ne voudront pas donner ces ressources-là.
Je comprends. Il y a aussi une volonté, en même temps, une corrélation chez Bernie Sanders, de vouloir réduire les inégalités et déjà peut-être même d'abolir les milliardaires, voire mettre des taxes très 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 fortes sur les riches. Mais néanmoins, le lithium, il faudra quand même aller le chercher ailleurs.
Ah oui, mais je défends la lutte contre les inégalités, ce qui est un facteur de chaos parfaitement connu et modélisé en temps contraint. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est politiquement à défendre. D'autant plus que si on lit Piketty ou Milanovic, c'est des choses qui ont déjà existé au cours de l'histoire et qui sont probablement vertueuses en temps contraint. On le sait, enfin voilà. Chez Tainter, on lit que l'Empire byzantin s'est probablement prolongé parce que des décisions ont été prises de justement réduire les interfaces entre le peuple et le système de défense, donc l'acquisition de pouvoir, les administrations, les politiques, les privilégiés, les riches, etc. Mais le système de défense a été conservé, les agriculteurs ont été conservés, et l'Empire, grosso modo, a duré un peu plus longtemps. Est-ce que ça, c'est applicable dans un système mondialisé ? J'en sais rien du tout. Personne ne le sait. En tout cas, on sait que la réduction des inégalités est nécessaire. Donc, oui. Là, j'ai pas de réserve. C'est quelque chose qui doit être. C'est un choix qui doit être fait.
Là, récemment, on voit des épisodes. Je sais pas si tu les as vus, mais je crois des parasites qui essayent de d'illustrer un effondrement justement.
Ouais.
C'est des épisodes qui sont très 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 bien pensés, très très bien tournés, avec un shot, une vue continue, une histoire qui se met en place sur une vingtaine de minutes. Très prenant, très très prenant. Est-ce que toi, tu vois l'effondrement un petit peu de cette manière-là ? C'est une forme hein, parmi d'autres, mais est-ce que tu la trouves crédible ? Donc, le fait qu'effectivement, il se passe quelque chose et puis que tout ferme gentiment et que les gens se retrouvent comme ça du jour au lendemain, sans solution.
Ils ont pris l'option de décider que la France subissait un arrêt des approvisionnements en pétrole du jour au lendemain et ils ont regardé ce qui se passait suite à leur lecture de différents bouquins. C'est un parti pris respectable et je pense que des situations comme celles qui sont décrites sont possibles. Pourquoi ? Parce qu'on les a déjà observées par ailleurs dans des situations réelles et qu'elles sont théorisées notamment en période de blackout électrique. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Par contre, je pense que se limiter à cette grille de lecture-là sur un effondrement, c'est s'empêcher de penser ce qui se passe sur le moyen terme, voire le long terme. Et en fait... Ce que je vais te dire est quelque part entre ce dont je suis convaincu et l'espérance. C'est que je suis convaincu que des périodes comme celle-ci sont des chocs et des moments courts de l'adaptation en temps contraint ou en processus de négativité, pour utiliser un autre terme un peu instruit ou élaboré ou raffiné. Un processus de négativité, j'aime bien utiliser ça parce que ça décrit bien un long moment. De la même façon que l'Empire romain ou les cités mayas se sont effondrées sur plusieurs siècles, 300 ou 400 ans. D'accord ? Nous, on parle d'effondrement, mais en fait, c'est un long processus de déclin. Ces processus-là se sont forcément déroulés avec des périodes de choc et des ruptures. En particulier, le passage global du pic ou du climax de l'adaptation, du moment où tout va pour le mieux. On serait plutôt dans ce moment-là où personne ne comprend ce qui se passe. On est encore gouverné par des élites qui sont déconnectées complètement de la réalité, pour toutes les raisons conceptuelles notamment qu'on a décrites aujourd'hui, et qui prennent de mauvaises décisions, ou des décisions complaisantes avec les nouveaux pouvoirs privés, comme on le voit, etc., ce qui est incompréhensible pour les peuples, pour les raisons qu'on a dites, ce qui fait que ça crée des tensions, et que ces tensions, s'il y a une rupture, eh ben explosent. Et à juste titre, enfin, c'est légitime que les gens qui se sentent fragilisés, qui ne comprennent rien, aient des angoisses et réagissent avec les instincts primaires qui sont très bien décrits par Sébastien Boller dans son livre Le Bug Humain. Quand on est face à une agression, on est soit dans la stupeur, soit dans la fuite, soit dans l'agression. Et ben voilà, y a parfois des situations où l'agression et la violence sont inévitables, mais je ne peux pas conceptualiser ou je ne peux pas accepter que ça soit définitif et permanent et pour tout le grand processus de déclin, parce que l'histoire ne le montre pas, et parce que ce qui est propre à un processus de négativité, c'est justement le fait qu'on ait de moins en moins d'énergie chaque jour, et de moins en moins de confort et d'avantages chaque jour. Et à mon sens, ça peut, je vais rester dans l'hypothèse, ça peut réguler les comportements agressifs, parce qu'on a des comportements agressifs pendant un temps, et comme on perd à chaque fois, eh ben on finit par arrêter et par redévelopper ce qui est l'opposé du comportement agressif, c'est des stratégies, comme on disait tout à l'heure, plus coopératives. Mais c'est extrêmement contextuel, et ça peut varier, et c'est très dépendant de la culture, c'est dépendant des structures de pouvoir, c'est dépendant de la résilience territoriale. Donc c'est pour ça que je m'inscris volontiers dans la défense des travaux d'un Stéphane Linou, d'un Alexandre Boisson en France, qui vont contacter les maires pour travailler sur la résilience territoriale. Parce que le grand oublié de la mondialisation, c'est comment le territoire subit les chocs. Et les
En
chocs,
France,
en France.
non.
Oui, pardon, c'est en France. Les personnes que je cite sont françaises. Mais leurs réflexions sont internationalisables. Aujourd'hui, on a un pays qui subit un virus et ils ont mis l'équivalent de la population française en quarantaine. Ça, c'est un choc adaptatif qui, s'il n'a pas été anticipé en termes de stock et de possibilité de gérer des flux malgré la quarantaine, eh ben, les gens vont souffrir énormément et peut-être adopter des comportements conflictuels, voire hostiles entre voisins, etc. Donc, c'est des choses qui s'anticipent et qui se préparent afin d'éviter des situations qui sont possibles telles que décrites par les parasites, mais pas inéluctables et surtout pas forcément systémiques et pérennes. Encore une fois, je suis entre ce que je pense vraiment et l'espérance.
Si on s'attaque un petit peu aux énergies justement, tu as parlé du peak oil à un moment donné, ça c'est quelque chose qui est déjà passé il y a quelques années peut-être, enfin, ça dépend pour quelle région, mais je crois que globalement on a passé le peak oil. Est-ce qu'on peut un peu parler des énergies et aussi des technologies pour capter le CO2, enfin tout ça, ce questionnement des énergies?
Oui.
Est-ce que tu es d'accord de te lancer là-dedans?
Ah oui, volontiers. Tout d'abord, le peak oil conventionnel a été passé certainement en 2005-2006. Je crois qu'il n'y a plus de débat là-dessus. Mais ce n'est pas le peak oil, tout pétrole confondu. On exploite de très mauvais.
Les sables bitumineux ou
Ou
les
les
gaz de
chi.
schisme.
C'est ça.
Schiste.
De schiste.
Schiste.
Les gaz de schisme, c'est tout à fait autre chose.
Ok.
Non, non. Oui, donc les pétroles de mauvaise qualité ont fait que le volume global d'hydrocarbures liquides distribués dans le monde n'a pas réduit depuis 2006. Mais c'est quelque chose qui se situe entre l'artifice comptable et une réalité géologique qui fait que de toute façon, à un moment donné, tout pétrole confondu, on passera un plateau puis une grande descente. Peu importe, à un moment donné, la géologie nous imposera une contrainte de l'extérieur. Après, ce passage de pic ne veut pas dire rupture. Il veut dire réduction progressive de la quantité, c'est ce que je disais tout à l'heure, de la disponibilité de l'énergie. Par ailleurs, les pétroles, c'est quelque chose de critique parce que c'est vraiment le sang de nos sociétés. 95% des transports sont faits grâce au pétrole. Mais de l'énergie, on en a encore beaucoup trop. Et ne serait-ce qu'avec le pétrole, on en a trop, mais on a surtout beaucoup trop de charbon et du gaz, qui est souvent le grand oublié des calculs. Mais le gaz, en fait, pour une exploitation, on va dire, équivalente en termes de services rendus du pétrole, beaucoup disent que c'est plus économe en CO2. En fait, ça fuit tellement sur le réseau que si on a quelques pourcents de fuite sur le réseau, on est aussi problématique pour le climat qu'avec le pétrole. Bon. Mais ce qui est important pour moi dans ce qu'on aimerait faire pour se débarrasser du pétrole ou pour éviter les émissions de CO2, c'est une transition énergétique. Et je propose moi un diagnostic de la réalité parfaitement connue qu'on ne fait pas de transition énergétique. Aujourd'hui encore, ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est l'épaisseur du trait sur toutes les courbes de consommation d'énergie, quoi. Alors on fait la transition énergétique avec des barrages hydroélectriques en Asie, beaucoup, qui sont en train de ruiner tous les écosystèmes et de façon définitive. Quoi qu'il en soit, c'est là où je voulais en venir. Aujourd'hui, on est dans une situation où plus politiquement on annonce qu'on va faire la transition énergétique, plus on émet de CO2. Et entre ces deux données, je pose une hypothèse qui est celle du renforcement synergique des énergies, qui explique, enfin qui tente à montrer que, à mon sens, non seulement on ne va pas substituer les énergies sales par des énergies dites vertes, les photovoltaïques ou éoliennes, on ne va pas faire ça, et éventuellement de la biomasse, mais je pense même qu'on va d'autant plus extraire de pétrole, de charbon et de gaz du sol que nous aurons des moyens tiers pour aider à l'extraction des hydrocarbures.
Mmh. C'est un peu ce qui se passe d'ailleurs, hein. Ça n'a jamais remplacé, ça, a toujours, ça ajoute à la quantité totale, il n'y a aucune diminution de...
Ça c'est la première chose qui est parfaitement mesurée, c'est qu'il y a addition, ça c'est sûr.
Il y a addition, clairement.
Mais là où j'explore une hypothèse nouvelle, c'est que non seulement il y a addition sûre, mais potentiellement plus il y a de nouveaux modes de production d'énergie, plus on utilise ces modes pour d'autant plus exploiter les hydrocarbures. De deux façons. La première, c'est qu'on injecte de la richesse dans le système avec des nouvelles technologies. Ne serait-ce que par la dette, qui entretient le système capitaliste et spéculatif, mais aussi tout simplement parce qu'on injecte de l'énergie, quoi. On allume des foyers, des ampoules, des ordinateurs, on fait que les gens peuvent créer de la richesse. Ou en tout cas, détruire de la matérialité, c'est-à-dire créer de la richesse dans un système capitaliste schumpeterien. De ce fait, l'apport d'énergie supplémentaire entretient la circulation des flux de richesse dans le monde entier, en particulier sur les plateformes boursières, qui fait que les traders, quand ils voient de la richesse arriver, de toute façon, les flux de richesse sont dédifférenciés quand ils arrivent sur les places boursières. Et à ce moment-là, les traders, ils achètent du charbon.
Enfin, la Suisse est une place de négoce préférentielle dans le monde, effectivement.
Sans aucun doute. Et du coup, on a ajouté des systèmes de production de richesse qui permettent à des traders d'avoir un peu plus de richesse ou de dette, peu importe, c'est la même chose, pour d'autant plus donner des moyens aux pétroliers d'explorer et d'exploiter les hydrocarbures qui restent le socle à 85% de la consommation d'énergie dans le monde. Ça, c'est, on va dire, le détournement financier et économique de la transition énergétique qui, finalement, augmente la puissance d'extraction par des moyens économiques. Mais secondairement, techniquement, on observe aujourd'hui de façon très sûre, parce que c'est déjà déployé dans le monde, qu'on utilise des centrales à concentration solaire, des éoliennes et des panneaux solaires et des barrages hydroélectriques pour alimenter des sites d'extraction pétrolière. Ce qui permet, aux sociétés pétrolières de ne pas avoir à gaspiller, entre guillemets, un baril de pétrole pour aller chercher d'autres barils de pétrole, puisque ce baril de pétrole a beaucoup plus de valeur sur les marchés que pour faire l'extraction. Et donc là, on voit bien qu'il y a un renforcement du système d'extraction par un biais technique. D'accord ? L'exemple que je prends le plus souvent, c'est une situation réelle. Une centrale à concentration solaire, elle concentre les rayons du soleil, elle chauffe un liquide caloriporteur qui chauffe de l'eau, et l'eau est injectée dans les nappes de pétrole pour fluidifier le pétrole, ce qui permet d'en sortir plus. Donc là, on a vraiment un renforcement synergique, c'est-à-dire qu'on capture une énergie verte pour aller chercher une énergie grise qui ne serait pas sortie du sol sans énergie verte. Donc on a bien, in fine, plus de CO2 dans l'atmosphère.
Une fuite en avant totale.
Ah oui, complètement. Voilà mon point sur la transition énergétique, je n'y crois pas une seconde.
Oui, d'accord. Il y a la question du nucléaire aussi.
Oui.
Qui crée débat. Je crois que justement, Moscovici, je ne suis pas sûr de sa position, mais a priori, il ne rejette pas les centrales nucléaires comme le font les environnementalistes pionniers qui se sont battus contre le nucléaire depuis maintenant une trentaine d'années. Le nucléaire,
en fait, solution. À mon sens, un non-débat. Dans le sens où on ne peut pas penser en système isolé. Ce que j'ai dit au tout début de l'entretien à propos des parcs naturels est valable pour les systèmes de production énergétique. Si un pays fait plus de nucléaire, si c'est pour rester dans l'économie mondialisée ou de toute façon il externalise sa production industrielle dans les pays d'Asie qui font tout au charbon, en fait, on a plus de puissance d'achat avec les pays qui ont des centrales nucléaires pour acheter plus de produits qui sont fabriqués avec du charbon. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors aujourd'hui, l'Angleterre est un pays qui proclame, qui est assez fier d'une espèce de transition énergétique qui était de toute façon totalement obligatoire pour eux parce qu'ils n'ont plus de charbon sur leur territoire. Et donc, ils sont très contents de ça, mais leur marché, c'est l'industrie asiatique qui tourne totalement au charbon. Donc, si on pose l'hypothèse, et c'est un point critique, je n'ai pas beaucoup de points critiques hein, sur le travail de Jean Covici, mais c'est un point critique que j'ai qui est fondamental, c'est que penser en système isolé donne l'impression qu'on a la possibilité de substituer une énergie par une autre. C'est une pure spéculation de l'esprit qu'on ne vérifie pas dans le réel, donc il faut arrêter de maintenir cette hypothèse-là.
Parce qu'il y a une externalisation, notamment de la consommation.
Ah ben bien sûr, et puis surtout une complémentarité de tous les marchés qui font que tu ne peux pas isoler un sous-système et dire là c'est vertueux de la même façon que les parcs naturels, ça n'existe pas. Ça n'a aucun sens en fait. Et par ailleurs, le nucléaire est aussi, comme je le disais tout à l'heure, fait partie des énergies dites de substitution. Donc, on peut très bien dire que pour lesquelles on peut très bien dire que l'hypothèse du renforcement synergique des énergies est valable. Plus on fera de centrales, plus l'économie tournera, plus longtemps elle tournera, plus elle sera capable d'exploiter le socle de son fonctionnement qui est les hydrocarbures. Bah, pour terminer là-dessus, le débat sur le nucléaire n'a pas de sens. Parce que si les hypothèses fondamentales ne sont pas vérifiées et qu'on continue à travailler sur elles, on n'observe pas, on ne comprend pas ce qui se passe dans le réel, et le résultat sera les problèmes du charbon, les problèmes du gaz, les problèmes du pétrole, les problèmes des éoliennes, des photovoltaïques et du nucléaire. On aura cumulé tous les problèmes sans jamais avoir observé de substitution de quoi que ce soit.
T'entends parler, on se trouverait un petit peu quand même dans une impasse. Et puis on a envie de dire, mince, mais c'est à qui la faute, quoi? C'est qui qu'on peut accuser? Moins facilement, les boomers, là, je les ai un peu dans le viseur. Mais finalement, évidemment, la responsabilité est à être partagée. Et je ne pense pas que la culpabilité, finalement, puisse amener une réponse à l'équation qui nous est demandée. Mais quand même, cette question de responsabilité, et de culpabilité, comment tu la traites?
Je la traite, là encore, en posant des hypothèses, et même là, des hypothèses anthropologiques profondes, c'est-à-dire à quel moment nous avons réussi à outrepasser des limites environnementales, comment ça s'est fait que nous avons pu exploiter des techniques à ce point destructrices tout en négociant avec la réalité que nous constations, c'est-à-dire que le fait que nous chassions au point d'exterminer une espèce, nous l'avons vu depuis des dizaines de milliers d'années. Ce n'est pas quelque chose de nouveau dans notre vécu émotionnel. Et je pense que nous avons développé, par sélection, hein, pas volontairement, mais par sélection, un esprit qui est capable de deux choses, qui est capable, hein, fonctionnellement, c'est-à-dire que je pense qu'on ne retrouve pas ça à l'identique chez les êtres vivants. C'est pour moi une rupture ontologique, c'est-à-dire qu'on pourrait parler de nature humaine sur ces critères-là. Notre esprit est capable de deux choses, de dénier une partie de la réalité qui ne lui convient pas, de considérer qu'elle n'existe pas. Et la deuxième chose, c'est que si cette réalité revient par la force dans sa perception, l'esprit devient capable de rejeter cette réalité-là par substitution causale. C'est-à-dire dire, bah, cette réalité qui me revient dans la figure dans laquelle je semble être impliqué, eh ben je préfère dire je ne suis pas impliqué et je vais construire un ennemi sur lequel je vais rejeter la faute et ça m'arrangera bien.
Le capitaliste,
le capitalisme, etc.,
l'élite, la politique, le Macron,
les lobbies, voilà, le voisin, l'animal qui passe dans le coin pour les chasseurs-cueilleurs, tout sauf nous. Et c'est extrêmement efficace, fonctionnel, et bien vérifié dans l'histoire et la mythologie. On retrouve ça absolument partout de façon très systémique. C'est-à-dire que je crains qu'on ne puisse pas découpler l'exaction environnementale, les avantages acquis et tous les systèmes de défausse dont on a fait le diagnostic aujourd'hui qui sont structurellement nécessaires pour que l'information de la culpabilité ne revienne pas jusqu'au coupable lui-même. Et on a parlé de démocratie, on a parlé de naturalisme, on a parlé de tout ce qui permet à la fois le clivage et la défausse de responsabilité. Et donc là, on parle vraiment de structuration culturelle, politique, morale, philosophique d'une espèce qui a inventé la capacité à s'écrire des histoires, histoires qui lui servent à faire ce que font absolument toutes les autres espèces sur la planète depuis 4 milliards d'années, c'est optimiser leur capture d'énergie et de ressources. Et donc là, on a possiblement une théorie écologique de l'esprit qui permet de discuter d'une nature humaine, à la fois une rupture qualitative à un moment donné de l'histoire, et en même temps une continuité, parce que le point commun, malgré la rupture qualitative, c'est la nécessité de capturer autant que possible d'énergie pour assurer la survie de ses petits, en fait. Il n'y a rien de différent là-dessus.
Donc il faudrait qu'on accepte cet état de fait et cette nature qu'on a, pour après en prendre collectivement et individuellement la responsabilité?
Je ne sais pas si c'est possible, ça c'est une forme d'idéal que je pourrais partager, c'est-à-dire, c'est ce que j'appelle moi une singularité écologique, c'est-à-dire le contre-pied d'une singularité technologique. Une singularité technologique, c'est une date à partir de laquelle l'humanité est suffisamment affranchie des dépendances environnementales grâce à ces outils techniques qu'elle permet de s'extraire de la réalité, en quelque sorte, et peut-être se télécharger dans des ordinateurs, s'augmenter au point qu'elle devient réparatrice de l'univers, enfin des choses tout à fait déconnantes. Mais cette singularité technologique est conceptualisée et défendue par certains, au nom du transhumanisme dont on parlait tout à l'heure. J'oppose la singularité écologique, un peu ironiquement, mais aussi parce que c'est intéressant conceptuellement, parce que il se trouve que à la fois le rapport Meadows estimait une rupture possible dans nos économies autour de 2030-2040, c'est-à-dire qu'on observe un grand déclin ensuite, un grand déclin économique, et par ailleurs, Ray Kurzweil envisage que sa singularité technologique, elle se ferait à ces périodes-là, parce que les microprocesseurs seraient devenus suffisamment performants et les ordinateurs pour que nous affranchissions de certaines formes de dépendance. Et ben, entre les deux, d'un côté, on a les limites des ressources, la limite physique. De l'autre côté, on a l'illusion qu'on peut s'en affranchir. Ben, la réalité, c'est une forme de singularité écologique où il se passe une forme de rupture. Là, cette fois, peut-être ontologique, où l'humanité prend conscience de ses travers historiques et millénaires pour en faire quelque chose qui, et ça, c'est mon espérance au sens strict, c'est-à-dire je ne sais pas si ça se passera, mais déploiera de nouvelles stratégies qui lui éviteront la défausse de responsabilité systématique qui sont le terreau des conflits, des guerres et qui augmenteront tous les problèmes. C'est-à-dire que si on continue à avancer sur des modèles conflictuels, eh ben non seulement on aura la destruction de l'environnement, mais on aura aussi les guerres et les guerres civiles. Et les guerres civiles ne sont pas neutres non plus sur la protection de l'environnement. Alors, très brièvement...
Clairement, je crois que, d'ailleurs, le complexe militaro-industriel américain a une empreinte écologique plus grande que le pays lui-même.
Oui, c'est considérable.
Je ne sais plus les chiffres en tête, mais c'est pas un bon exemple, en tout cas.
Non, mais même...
Le conflit et la guerre sont demandeurs d'une énergie phénoménale.
D'une énergie, et puis même quand ce sont des conflits asymétriques et de petite échelle, en fait, l'environnement compte pour zéro dans ces circonstances-là. Et on va dégager tous les animaux qui gênent sur le territoire pour se faire la guerre. Ça a toujours été comme ça dans tous les contextes de guerre. Donc il n'y a pas non plus corrélation entre rentrer dans un schéma conflictuel pour protéger l'environnement. On n'a aucune certitude que ça marchera. Voilà. Donc dans l'ensemble, moi, je préconise rien du tout. J'espère que l'humanité parviendra à se défaire de son histoire de la conflictualité, qui est celle qui lui a parfaitement servi en croissance, mais qui pourrait être autotoxique en période de contrainte.
Ouais, absolument. On sent beaucoup, une nécessité d'humilité, de douter, et de se dire, on ne sait pas peut-être exactement comment. Comment ça va évoluer, qu'est-ce qu'il va falloir faire, etc. etc. Toi, tu parlais du doute, à l'inverse, du principe de précaution. Est-ce que tu faisais référence à ça ou c'était complètement autre chose j'avais repris cette citation dans une de tes...
C'est très ancien.
Ouais.
Oui, bien sûr.
Tu resitues un peu...
Oui. Et c'est un point qui est très important. C'est un point d'épistémologie et de méthode scientifique dans ses travers par rapport à la question d'aujourd'hui. C'est-à-dire que la méthode scientifique affirme, et à juste titre c'est tout à fait défendable, que la science ne produit que des modèles faux. C'est sa discipline. C'est-à-dire qu'elle s'interdit de proclamer que le modèle à date est celui qui décrit le mieux le réel. Il y en aura toujours un qui sera plus performant. Voilà, c'est tout à fait défendable, critiquable aussi, mais tout à fait défendable. Et ça, c'est très souvent très mal interprété comme étant la nécessité du doute. Et le doute, c'est pas du tout la même chose que de s'interdire de dire la vérité. Méthodologiquement, c'est pas tout à fait la même chose. Douter de tout, c'est ce qui est récupéré en particulier par les complotistes et les paranoïaques pour dire « rien n'est vrai ». Et en fait, quand la méthode scientifique dit il est nécessaire de dire que la science ne dira jamais la vérité, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vérité. Et ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire que derrière toute l'ignorance de la science, il y a une vérité absolue, même si on n'y a jamais accès. Donc il y a des choses qui sont à un moment donné suffisamment connues pour être considérées comme étant les plus performantes sur le chemin de la vérité.
Sur lesquelles faudrait alors à ce moment-là légitimement s'appuyer.
Très précisément, et il y a une connaissance scientifique sur laquelle il est incontournable de s'appuyer, mais de façon sûre et certaine, c'est la thermodynamique. C'est-à-dire les lois générales de l'énergie, c'est-à-dire que l'énergie, elle ne peut que décroître en disponibilité quand on l'utilise, et chaque transformation est irréversible. Et c'est tellement fondamental que, en fait, si les choix politiques étaient étayés et tous structurés autour de la thermodynamique, nous nous serions empêchés la croissance. Sauf que, entre la connaissance scientifique cheminant vers la vérité et les choix politiques, la méthodologie scientifique a été très mal instrumentalisée et récupérée pour produire du discours politique disant, eh ben, on peut douter et dire la transition énergétique est possible, par exemple. Alors qu'en fait, les lois, les principes de la thermodynamique disent que on ne peut pas, par exemple, on le disait tout à l'heure, récupérer le CO2 dans l'atmosphère. Parce que le principe d'irréversibilité et surtout l'entropie disent que quand une substance est dispersée dans un environnement, pour la récupérer, il faut plus d'énergie que ce qu'il aura fallu pour la disperser. Ce qui est totalement absurde pour notre situation climatique. D'accord ? Et donc ce type de calcul-là, ajusté à la réalité, devrait nous interdire de conceptualiser la recapture du CO2. Mais au nom du doute et de l'ouverture, du progrès et du fait que la science puisse toujours réfuter mais interpréter de façon, à mon sens, erronée.
On va quand même essayer.
On va s'autoriser des choses dont on sait, avec un indice de chance extrêmement grand, que c'est suicidaire. Voilà. Lorsqu'Arrhenius, un des aïeuls de Greta Thunberg, a conceptualisé le réchauffement climatique en disant « tant de CO2 dans l'atmosphère, c'est tant de degrés », il s'est trompé sur les calculs, mais il avait raison sur le processus. Si on avait considéré que c'était quelque chose qui cheminait vers une vérité de prudence, s'il lui a été répondu « c'est pas sûr » et vu qu'on n'en est pas certain, il faut y aller, eh ben, on a instrumentalisé le doute scientifique pour dire ben, on a un risque, mais tout est permis quand même parce que ça n'est qu'un risque. Alors que, pour en reprendre encore une fois le comportement des chasseurs-cueilleurs, à chaque fois qu'il y avait un risque adaptatif, s'il n'y avait pas de raison objective de développer une technique qui était nocive, on ne la développait pas. Voire, il y avait des stratégies d'empêchement du développement de la technique. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure à propos de l'interprétation totalement erronée de l'intuition des chasseurs-cueilleurs, qui est instrumentalisé sans queue ni tête par les récits de l'effondrement contemporain. Je ne sais pas si j'ai été clair sur ce point, mais le doute...
Ça me parle. Et puis du coup, ça force à l'esprit critique tout le temps, mais quand même avec des sources, en tout cas, fiables, ou qu'on pourrait déterminer comme fiables pour avancer, mais sans en faire un prétexte pour après faire tout et n'importe quoi. Parce que peut-être c'est possible, on ne sait pas.
Bah oui, le doute n'est pas l'autorisation, n'est pas la liberté en soi. Le doute n'est pas la liberté en soi, pas du tout.
C'est ça,
ça n'a rien à voir.
Ouais. La désobéissance civile, je voulais revenir sur ce point avec toi. Tout justement, ce qu'on essaie de faire ne semble pas fonctionner, on s'en rend bien compte. Du coup, j'ai l'impression que certains groupes ou militants ou gens qui se rendent bien compte que ça ne marche pas sont peut-être forcément avoir la compréhension du pourquoi. S'essaye à différentes méthodologies. Et puis, celle qui maintenant revient un petit peu au goût du jour, alors qu'elle est très ancienne, hein, c'est celle de la désobéissance civile. Est-ce que tu penses que c'est un moyen qui pourrait changer la donne ?
J'ai pas de réserve sur le moyen. Je ne sais pas comment on fait une révolution. Je serais bien présomptueux à dire comment on va changer le monde. Ce qui pourrait être un point de critique, mais bienveillante, c'est de dire que il faut être très prudent sur le faux dilemme de considérer que ce qui a fonctionné en période de croissance pourra donner de bons résultats en période de contrainte. La désobéissance civile, si elle débouche sur la déstabilisation d'un système qui rend des services à la société, un système quelconque, alimentaire, de défense ou de santé, dans le but d'une réforme, eh bien il faut que ce qui mène cette révolte, cette désobéissance, et conceptualiser comment ils allaient récupérer le système ensuite. Mmh. Sans quoi, ils risquent de générer ce qu'on observe déjà, c'est-à-dire de la réactance, c'est-à-dire générer des inquiétudes chez des gens qui n'ont rien demandé, qui sont juste habitués à avoir une retraite, la sécu, le chômage, la santé, etc., et de l'alimentation sécurisée, générer une inquiétude et une angoisse qui va faire que les gens vont s'opposer spontanément à réagir dans, en émettant le message que vous nous exposez à du vide, en fait, à du vide adaptatif. Donc, à mon sens, les révoltes qui ont fonctionné sont celles qui ont débouché sur, encore une fois, des confirmations par la réalité que la révolte était légitime. Mais si la révolte s'avance sans proposer quoi que ce soit qui rassure in fine les gens et qui soit suffisamment sécurisant, ça n'est pas aborder comment dire, c'est potentiellement même, et c'est malheureusement ce qu'on observe un peu partout dans le monde, renforcer les propositions du système sur les modèles du passé. Dire, par exemple, Greta Thunberg qui dit il faut écouter la science. Oui, mais la science, elle ne sait pas comment on gère un effondrement, par définition. Personne ne le sait. Donc, si on écoute la science et que les gens disent, vont lire la science et qu'ils ne lisent pas dans la science bah, comment on va faire la société demain, ils vont rejeter Greta Thunberg. Et c'est ce qui se passe. Elle fait tribune, mais les peuples ne vont pas dire Greta Thunberg, c'est celle qui va nous sauver. Et donc les peuples vont plutôt convoquer des récits d'autant plus fantasmatiques et hors sol que Greta Thunberg n'aura pas fait le travail de préconisation et de prescription ensuite. D'accord ? Et aujourd'hui, en réactance à Greta Thunberg, on voit en France, hein, des Laurent Alexandre, des Michel Onfray, des boomers hein, qui surréagissent sur des discours totalement irrationnels, mais qui viennent s'opposer et entretenir un clivage qui fait que rien ne change. Et alors, mais je suis embarrassé par ce que je vais vous dire, parce que j'ai dit, parce que c'est bien de dire aux gens qu'il faut qu'ils énoncent le programme pour la suite, mais j'en ai pas non plus. Donc je plaide coupable aussi. Donc j'en reviens à ce que je disais initialement, ben je ne sais pas, ok, pour la désobéissance civile, au moins qu'elle prenne en compte le fait qu'elle va pouvoir générer des réactions dans la société qui pourront être contre-productives in fine. C'est pour ça que la seule chose que je préconise ou que j'espère moi, c'est la réduction du conflit et en tout cas l'évitement de son entretien. Voilà.
Ok. En 2014, tu avais lancé Adrastia, ça fait maintenant 5 ans. Qu'est-ce qui a changé depuis 5 ans? Qu'est-ce qui évolue ou n'évolue pas? Quels signes positifs tu vois ou négatifs tu vois du temps qui passe? Qu'est-ce que fait le temps?
Sur quel
avec
plan
tout ça? Sur le plan finalement de tes travaux à travers Adrastia, cette volonté de d'une certaine manière d'informer, de préparer, de conscientiser peut-être, sur le plan que tu veux en fait.
Ouais. l'information circule infiniment mieux qu'en 2014. C'est peu Adrastia qui a fait ce travail-là vraiment. Encore une fois, c'est vraiment la collapsologie qui a le plus fait parler de ce débat-là, soutenu fortuitement par notre premier ministre en France, Édouard Philippe, qui a évoqué.
Ah oui, quand il y avait Nicolas Hulot.
Avec Nicolas Hulot, il a parlé du livre effondrement de Diamond. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'il y a eu une bascule, c'est-à-dire qu'avant l'été de cette canicule-là, 2018, et la démission de Nicolas Hulot et Édouard Philippe, le débat de l'effondrement était très... C'était un entre-soi d'écolos informés, quoi. Qui avait déjà une certaine ampleur, mais qui était relativement marginal dans le débat public, voire inexistant. Même Jean Covici, à cette époque-là, n'évoquait pas ce terme, il était très réservé sur le risque de rupture. Alors qu'il ne l'est plus aujourd'hui, il est vraiment très inquiet. Et il le dit explicitement. C'est une rencontre, si tu veux, entre le récit collapsologique et des circonstances du réel qui font qu'en France, ça a beaucoup changé assez rapidement. Adrastia a joué un rôle assez discret et modeste derrière, mais un rôle plutôt de rigueur. Voilà, c'est ce en quoi elle est connue et sa rigueur et sa prudence font qu'elle est maintenant réputée pour ça. Qu'est-ce qui a changé d'autre, hormis que le message circule plus? C'est l'autre chose qui a changé, c'est qu'il se conflictualise considérablement et il se caricature. Ce qui fait partie de mes craintes. Alors je propose un concept un peu mal qualifié que j'appelle la dichotomie à l'axe, qui est l'hypothèse que, en fait, les conflits dans l'humanité ne sont jamais faits pour résoudre les problèmes, mais sont faits pour entretenir l'évolution autour d'une... autour de la perspective progrès versus conservatisme. Mais les conflits sont faits pour se pour invisibiliser autant que possible le fait qu'on continue à détruire le milieu quoi qu'on fasse entre les deux. Donc c'est ce que j'appelle l'axe évolutif pour l'humanité en tout cas. Et je crains qu'on observe une illustration de plus en plus grande de cette polarisation des conflits autour du modèle économique de nos sociétés qui ne vacille pas pas d'un iota. Enfin, il ne bouge pas du tout. Mais par contre, autour de ça, bah, on a Greta Thunberg et Michel Onfray ou Laurent Alexandre, et on a, dans les statistiques qui sont sorties hier, la polarisation collapsologie-survivalisme. Mmh. Le grand public fait ce type de conflit intérieur et exprime ce type de conflit intérieur, c'est-à-dire devient incapable de penser ce qui se passe au milieu, qui est la réalité de la destruction et l'avancée vers l'effondrement. En tout cas, se protège de la nécessité de faire quelque chose en continuant à maintenir le conflit. C'est ça, en fait, la dichotomie à l'axe. C'est ce qui permet d'éviter le changement. On maintient le conflit pour ne pas changer.
Absolument. Les métiers d'avenir, y en a-t-il? Les jeunes, aujourd'hui, doivent-ils être commerciaux et vendeurs de logiciels pour imprimantes?
Comme dans la série des Parasites. C'est une question qui n'a pas de réponse simple.
Ça tombe bien, on a le temps.
Ouais, je préconise. Quand on pose... ouais, non, mais on peut pas s'empêcher. Hein.
On peut pas s'empêcher.
Ouais.
La nature humaine.
C'est ça. Non, je préconise rien j'essaye de ne pas trop le faire. Quand on me pose cette question, je suis plutôt favorable à une forme de compromis. Sans compromission, c'est-à-dire passer d'un état à un autre sans rupture trop grande. En fait, aujourd'hui, on a un retour d'expérience de nombreuses personnes qui, en 2014, 15, 16, ont pris dans la figure l'effondrement et ont fait une rupture de vie complète jusqu'à s'isoler de la société, partir de la ville, quitter son emploi, monter des modèles permacoles, communautaires, etc.
Ouais.
Et 5 ou 6 ans plus tard, on a des retours d'expérience qui vont du retour à la ville et récupération de l'emploi précédent jusqu'au drame familial le plus critique. Mais dans l'ensemble, on a beaucoup plus d'échecs que de réussites. Pour des tas de raisons, encore une fois, conceptuelles, l'autonomie, ça n'existe pas, il y a toujours des hiérarchies, il faut faire des compromis. Quand on est permaculteur, on n'assure pas sa défense soi-même, il faut payer un tribut à celui qui va assurer la défense. Et cette défense-là, encore aujourd'hui, c'est l'État, c'est personne d'autre. C'est bien ou c'est mal, c'est un choix idéologique, mais c'est comme ça. Donc on ne peut pas dire, je vais m'inscrire en permaculteur et vouloir vendre des tomates sur le marché sans que ces tomates soient taxées pour que l'État puisse récupérer ce qu'il faut pour financer l'armée qui permet la défense du territoire, ou les CRS, ou quoi, ou la police, etc. Donc on ne peut pas s'extraire du système, pas comme ça. Je n'y peux rien. Je préférerais peut-être qu'on sauve les écosystèmes en faisant une rupture du jour au lendemain et qu'on devienne tous quelque chose entre l'humain moderne et le chasseur-cueilleur. Voilà, c'est pas la question. C'est juste que la réalité est comme ça, l'interdit. Donc, je pense qu'il faut se former, comprendre les enjeux à très grande échelle, ne pas s'éloigner de la réalité autant que possible. Donc, ce que font les ingénieurs aujourd'hui de convoquer des personnes qui reconnectent les chaînes de causalité, bah, c'est très bien, mais on aura besoin d'ingénieurs. Donc ça, c'est une forme de réforme de l'éducation et de l'enseignement qui est la demande même des enseignants. Ils ont besoin pas de reconnexion à la nature, mais de reconnexion à la réalité. C'est bien ce qu'on différenciait tout à l'heure. La réalité et la nature, ça n'a rien à voir. Et donc voilà, je pense qu'on peut s'engager dans la société telle qu'elle est aujourd'hui en comprenant bien qu'elle va muter profondément, donc en acquérant de l'expérience. Et oui, évidemment, beaucoup ou autant que possible de compétences manuelles. À terme, on va travailler plus de nos mains que par le passé. À terme, hein, on n'est pas encore dans un shift à ce niveau-là. Mais oui, je pense qu'il faut trouver des voies de compromis plus que des voies de rupture. Les voies de rupture, ça entraîne des ruptures, quoi.
Il y a quelques années, je crois que c'était en 2012, là, quand le monde allait s'effondrer, le monde Maya, on a vu tout un mouvement de, pour le coup, survivaliste. Et il y en a aussi hein, qui prennent un petit peu cette forme de réponse face à l'effondrement cette fois, pas au changement de monde, etc. Ça me semble assez illusoire là d'aller se cacher avec des boîtes de conserve et un fusil. Tu vois une...
Non.
Non, non, non mais... tu vois rien de...
Non, là-dedans,
y a aucun... ça n'a aucun sens. Hein.
Ça n'a aucun sens, mais même dans les mouvements survivalistes les plus durs, depuis justement le surgissement de l'effondrement et de la matière intellectuelle autour de cette question, les survivalistes eux-mêmes reviennent sur leur modèle d'adaptation.
Il semble qu'on entend moins parler.
Oui.
Et pourquoi, à ton avis?
Parce qu'ils ont compris que c'était complètement défaillant.
En fait, à quel niveau? Parce qu'on pourrait se dire, c'est quelqu'un qui peut être complètement autonome, retour au chasseur-cueilleur, indépendant et défensif.
Oui, mais il y a un monde autour qui est bien plus puissant que lui tout seul. Enfin, c'est n'importe qui moi, je ne suis pas spécialiste de la défense, ni des armes, ni de la sécurité, mais quiconque a un tout petit peu d'expérience dans le maniement, ne serait-ce que d'une petite arme à feu ou un fusil, c'est qu'une personne isolée qui essaye de se défendre de cette façon-là a tellement peu de chances d'être efficace que s'il y a ne serait-ce que deux personnes en face de lui ou trois, enfin, c'est assez rapide en fait. Bon, il y a d'autres contextes de guerre à Sarajevo, en Europe de l'Est, dans les conflits en Afrique, où on voit très bien que les premières personnes qui sont visées, ce sont celles qui ont des stocks, qui se protègent et qui s'isolent. Parce que ce sont des lieux de convoitise. Puisqu'il y a...
Tu dis les premières personnes protégées, attaquées.
Oui.
Les premières personnes attaquées.
Les premières.
C'est celles qui se protègent.
J'ai dit protégées. Bon,
peut-être, je ne suis pas certain, mais je crois.
Les premières personnes qui sont attaquées, c'est celles qui ont des stocks et qui ont décidé de se protéger et d'être autonomes.
Ok.
Parce que stratégiquement, il ne faut pas les laisser en autonomie, parce que c'est des points d'hostilité à un moment donné, et puis ils ont des stocks. Enfin, c'est totalement déconnant dans la gestion de la sécurité, et les survivalistes eux-mêmes commencent à le comprendre. Donc ce schéma-là est dissonant et dysfonctionnel. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant ou sympa d'apprendre à faire du feu dans la forêt et passer quelques nuits dans le froid, parce que ça apprend la vie, mais ça n'a rien à voir avec l'autonomie. L'autonomie, ça n'existe pas. L'autonomie, au sens d'écrire ses lois tout seul, en fait.
Ouais,
l'étymologie, ça c'est pas un truc, c'est encore une construction occidentale, ça.
Je vais te demander d'être un petit peu voyante ou voyant. Les 5-10 années à venir, c'est quoi les informations, le sens que ça va prendre, à ton avis? On va rien changer, on va commencer à changer vraiment? Là, c'est évidemment, j'aime pas cette question, mais comme t'es quand même plongé dedans. Depuis maintenant plusieurs années, hein, autour de ces réflexions, tu peux peut-être voir aussi le système plus facilement que moi, puisque tu l'étudies en permanence face à ces difficultés. Qu'est-ce que tu imagines, toi, et là tu vas parler individuellement évidemment, sans t'engager j'imagine, mais qu'est-ce que tu imagines se matérialiser pour... les années à venir. Servigne avait dit que l'effondrement allait venir avant 2030, par exemple. C'était un peu mouillé pour ça. Ça ne veut pas dire que ça soit une bonne chose, hein, parce que c'est un risque quand même d'être décrédibilisé le cas échéant si avant 2030 il n'y a pas de.
Il avait même dit peut-être avant 2021 et sûr avant 2030.
Ouais. Exactement, il a dit ça. Ouais. 2020, je crois même.
Oui, c'est ça. Bon, mais en tout cas, déjà, on ne parle pas de la même chose parce que j'ai pas.
C'est vrai.
J'ai pas précisé tout à l'heure ma définition de l'effondrement. Pour moi, l'effondrement, c'est quand on perd la maîtrise sur le fait de repousser à l'extérieur de son organisation les contraintes de la régulation sur l'alimentation, la santé et la sécurité. Ça, c'est un effondrement. C'est quand on n'a plus les moyens de garantir que les gens vont manger, avoir une santé minimum et être en sécurité. Et ça peut ne pas être définitif et ça peut s'anticiper. C'est-à-dire que les stratégies de gestion de crise, c'est des choses qui permettent d'éviter les effondrements de système, en fait. Une centrale nucléaire, tout normalement, enfin, j'espère, tous les systèmes sont multipliés. S'il y en a un qui lâche, il y en a d'autres qui récupèrent. Ça, c'est une façon d'anticiper un effondrement d'un système technique. Bon. Est-ce que nos sociétés peuvent traverser des périodes d'effondrement? Oui, on le voit déjà, en fait. Des territoires... Cet hiver, de la neige est tombée dans la Drôme et des dizaines de milliers de gens se sont retrouvés sans électricité pendant plusieurs jours et il y a eu des situations critiques. C'était en France, donc il y a eu des approvisionnements, mais il y a eu des situations qu'on pourrait comparer à des micro-effondrements. Et on a observé quoi? Que des groupes électrogènes avaient été installés pour alimenter des quartiers ou des hameaux, et les pompes électrogènes ont été, comment on dit, siphonnées pour récupérer le diesel. Pour X ou Y, je ne sais pas qui, mais en tout cas des situations où une situation, enfin voilà, un état qui pouvait être maîtrisé ne l'a pas été totalement parce qu'il y a eu des groupes hostiles. Ce que je crains, c'est que les pouvoirs, je vais parler que de la France, puisque je ne vais pas parler du monde, la situation est trop diversifiée et complexe. Et puis de toute façon, il y a des situations où c'est tellement simple quand des milliers d'hectares brûlent en Australie, c'est définitif, c'est fait, les gens n'ont plus qu'à partir. Voilà. C'est des effondrements quasi irrévocables. En France, ce que je crains vraiment, c'est quelque chose d'assez ancien dans la construction du pouvoir qui naturellement est tellement proche des systèmes de défense et en particulier de l'armée qu'il devient naturellement, je dirais, et on le voit aujourd'hui, fermé à toute négociation avec le peuple quand il y a un problème. Et c'est quelque chose d'assez intrinsèque au pouvoir français. Bon, je parle de ce pouvoir-là parce
Qui est très
que
centralisé.
qui est très centralisé et très dépendant de la défense aussi à cause du paramètre nucléaire. Voilà, parce qu'avoir une énergie nucléaire, à la fois civile et militaire, forcément, ça fait que la défense a un rôle très important. Et donc, la gestion d'un effondrement en France, tel que je ne souhaiterais pas que ça se passe, c'est une gestion à la volée, de façon arbitraire, plutôt violente et très discriminante, et peu résiliente, de fait. Donc, je serais plutôt favorable à un idéal, proposé par l'Institut Momentum. Très discutable, mais qui est celui des biorégions, c'est-à-dire que nous commencerions à penser dès aujourd'hui. Il est discutable parce qu'il n'empêche pas une forme d'élitisme des citadins qui serait nourri par les régions autour de la ville, mais qui serait une forme de système alimentaire de proximité avec une protection des voies ferroviaires qui permettent l'alimentation des villes, etc. Enfin, un système plus communautaire, commun, gestion des communs. Voilà, entre le monde idéal de la gestion des communs dans une décroissance maîtrisée et les pouvoirs centralisés qui vont tout faire pour tirer la couverture à eux, et on le voit déjà avec une. La question est très critique, mais je vais l'aborder sous un angle précis. C'est celui du récit. On l'a dit tout à l'heure, le récit, c'est ce qui permet le clivage, le déni, et surtout, je ne l'ai pas bien précisé, mais les anthropologues, les historiens montrent bien que le récit, c'est ce qui permet la coopération. Je l'ai plus
On
ou moins dit.
fédère autour d'une
Voilà.
histoire commune,
C'est ça.
une vision commune.
Et aujourd'hui, là, dans le monde de l'écologie, en particulier de la collapso, c'est la guerre des récits. Tout le monde proclame avoir le récit le plus efficient, ou être celui qui va l'écrire pour les autres, ou être celui qui dit, il faut absolument qu'on cherche ensemble des récits, des récits, des récits. Très bien. Mais bon, déjà, les récits, c'est découplé, on l'a dit tout à l'heure, de la gestion des ressources. Déjà, ça ne veut pas dire qu'on va plus, ou mieux gérer nos ressources. Mais surtout, le récit, si ça sert à gérer la coopération, on peut rajouter un paramètre qui est maintenant vérifié par des neuroscientifiques. Ça gère aussi à structurer l'autodomestication de l'humanité. C'est-à-dire ce que la Boétie disait être une forme de servitude volontaire. C'est l'acceptation du récit dominant pour s'inscrire dans une hiérarchie qui garantit la survie. Donc, à mon sens, la question critique de demain, ça n'est pas le récit. Trouver le bon récit, parce qu'il n'y en aura peut-être pas de bon, mais c'est surtout quelle va être la demande des peuples pour obtenir le récit le plus sécurisant à court terme, quitte à ce que ce récit soit terrible pour le long terme. Donc ma crainte, la plus grande, c'est que les gens, d'autant plus qu'ils seraient mis dans une situation d'inconfort émotionnel, qu'ils auraient été mis en réactance par des militants naïfs sur la perspective écologique ou solutionniste, qui n'auraient pas justement proposé de modèle de réception de la société après une révolte, la réactance serait tellement grande que les gens se raccrocheraient au récit le plus populiste et le plus démagogique qu'ils puissent trouver immédiatement. Si on ne voyait pas déjà ça au Brésil ou aux États-Unis ou même
Grande-Bretagne.
ou en Grande-Bretagne ou même en Russie, où c'est quasiment officiel de dire que, enfin, c'est redevenu officiel que le climat ne se réchauffait pas de façon à cause de l'homme. En fait, l'autodomestication de l'humanité, c'est la question anthropologique cruciale depuis l'agriculture. Qu'est-ce qui fait que les gens acceptent de travailler pour payer quelqu'un d'autre ? Et probablement que ça, ça n'est pas réformable parce que notre cerveau a évolué avec ça. Les neuroscientifiques disent qu'on aurait perdu 20% de notre cerveau, ça serait la zone de la révolte, de la rébellion, de la pensée autonome, de la non-acceptation de l'arbitraire, etc. Mais qu'avec l'agriculture, tous ceux qui se sont révoltés, ils se sont pris l'armée en face et ils ont été sélectionnés, ce qui fait que de la même façon que nous avons asservi le mouton, la vache et le poulet en sélectionnant les plus faibles, l'humanité aurait sélectionné en son sein les plus faibles. D'accord ? C'est pas une hypothèse en l'air, hein. C'est quelque chose qui se dit et qui s'écrit avec des vérifications sur la forme du cortex.
C'est pas rassurant.
Et non, c'est pas rassurant. Mais du coup, comment demain, le pays qui s'en sortira le mieux, même en contexte d'effondrement, sera peut-être celui qui énoncera le récit le plus efficace, mais pas forcément le plus rationnel. Ça pose une question par rapport à si on veut des retraites, je reprends l'exemple de la France que je connais, si on veut des retraites financées par les impôts plutôt que par des boîtes privées, quel est le récit que l'État doit porter pour que les gens travaillent plus, pour générer plus de richesses immédiates pour leurs revenus, pour que les taxes soient plus élevées ? Plutôt qu'ils travaillent moins et qu'ils soient dans un line management d'entreprises privées qui les presse, qui les compresse, et qui détournent leur consommation pour des intérêts spéculatifs en dehors de l'État. Quel récit va être choisi entre les deux pour cadrer la consommation qui ira dans la direction de l'État et du commun ou dans la direction du privé ? C'est ça la question aujourd'hui. Et au milieu va se placer la fin des ressources et les limites qui vont contraindre le tout avec une demande forte de réassurance émotionnelle, donc de récit. Les sociétés modernes ont l'impression d'avoir déclaré l'humanité rationnelle ou capable de penser rationnel. Aucune certitude là-dessus. Peut-être que l'avenir de l'humanité, c'est l'adhésion à des folies diverses et variées, mais tant qu'elles font manger, on y va, quoi. Voilà.
Est-ce qu'on a des questions de la communauté, là ? Est-ce qu'il y a un petit peu des choses qui sortent de votre côté ? Faites-moi savoir si c'est le cas. Il y a quelques années, tu es venu en Suisse, puis tu as parlé de quelque chose que je ne connais pas du tout, la synesthésie.
Ah oui.
Et ça m'intéresse aussi. Mais comme je ne connais pas du tout, en fait, c'est quoi la synesthésie ?
Alors est-ce là, que on tu change. Peux...
Ouais, alors on change. Alors,
totalement de sujet, ou quasiment. Sujet,
ouais. Mais tout est lié, je pense.
De fait, oui. Et chez moi, en tout cas, le sujet de l'écologie et la synesthésie sont liés, mais c'est très long à expliquer. Je ne sais pas si on prendra le temps de tout expliquer.
Essayez de faire quelques points.
Voilà. Alors, la synesthésie, c'est une condition neurologique que vivent quelques pourcents de la population, 4%, à peu près pareil dans toutes les cultures et chez tous les humains. Alors, on n'a pas des études assez fines partout, mais en tout cas, on estime que 4% de la population vit cette condition neurologique. Et cette condition neurologique est le fait que le cerveau montre à la conscience le mélange des sens. Je fais vraiment très simple. C'est-à-dire, par exemple, que le cerveau, lorsqu'il capture une information tactile, voilà, je touche une surface, il va interpréter, pour une raison qu'on ne connaît pas très bien, le cerveau fait ça, il va interpréter cette information tactile, cette sensation tactile, en une sensation gustative. Ce qui fait qu'en touchant une surface, la personne va avoir un goût sur la langue, par exemple du velours qui donnerait un goût de sucre, et la personne va toucher le velours et va avoir un goût de sucre sur la langue comme si elle avait un sucre sur la langue.
Ça, c'est pour les 4% dont tu disais tout à l'heure,
ça,
ou tout le
monde,
ça ?
Une forme de synesthésie parmi 60 ou plus synesthésies. Pourquoi ? Parce que les synesthésies, ça concerne tous les sens. Donc pas que les cinq sens, parce qu'en fait on a le sens de la douleur, donc la nociception, on a la proprioception, on a l'équilibrioception, On a une sensation, on peut avoir les thermoceptions, la sensation de chaleur ou de froid. Le sens tactile lui-même se décline en pression, vibration, intensité, enfin voilà. Et tous ces sens-là, déjà, peuvent se combiner les uns avec les autres, ce qui fait plus de 5 et les combinaisons peuvent être multiples. Mais par ailleurs, la synesthésie peut toucher ce qui s'appelle des modes d'intégration de la réalité, pardon, les modes d'interprétation de la réalité. Donc la perception, c'est l'intégration. Mmh. Et l'interprétation, c'est par exemple les émotions qui permettent de comprendre le monde, si j'ai peur ou si j'ai du désir ou si j'ai faim. Enfin, c'est pas une émotion, mais l'ensemble des émotions. Et les langages, tout ce qui permet d'interpréter le monde. Donc, je vais donner quelques exemples parce que là, je suis sûr que c'est abstrait pour beaucoup, mais la synesthésie, par exemple, c'est le fait de percevoir, à chaque fois qu'on y pense, les lettres en couleur. Donc, chez moi, par exemple, le A a la couleur jaune. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'écris ou que je pense au A, la couleur jaune va se matérialiser sur la lettre de façon arbitraire et irrépressible. Je n'ai pas le choix.
Un A est jaune de toute manière.
Un A est jaune de toute manière depuis aussi longtemps que je connais le A et il n'y a pas de raison que ça s'arrête dans ma vie. Ça disparaît rarement, les synesthésies.
Ok.
D'autres synesthésies, les chiffres en couleur, ça marche aussi. Un autre paramètre important, chaque graphème, là en l'occurrence, a toujours la même couleur tout au long de la vie de la personne. Ça ne change pas, c'est très très rigide la synesthésie. D'autres formes de synesthésie touchent par exemple la perception du temps, enfin la conceptualisation du temps, et des personnes peuvent visualiser leur semaine ou leur mois ou les années sur des rubans que l'esprit va projeter à l'extérieur de lui. Alors ça paraît un petit peu fou dit comme ça, mais c'est bien quelque chose de vérifié, et c'est le témoignage phénoménologique, pour dire un gros mot, des personnes synesthètes. Le cerveau produit bien une image à l'extérieur. Ça veut pas dire qu'il y a des choses à l'extérieur, c'est bien une production du cerveau. Mais le synesthète du calendrier va voir sa semaine sur un ruban plus ou moins souple, avec chaque jour qui aura une couleur, etc. etc. Il se trouve que je perçois les sons et la musique en forme et couleur. Ça veut dire que mon cerveau, dans certaines conditions, de moins en moins, malheureusement, parce que mon cerveau évolue, mais en tout cas c'est toujours présent, c'est moins intense, mais c'est toujours présent. Mais quand j'entends des musiques ou des sons, ceux-ci se matérialisent en quelque sorte c'est-à-dire que mon cerveau projette une image, mais je sais bien que cette image n'est pas réelle, à la valeur de réalité, comme pour toi et moi, le son a valeur de réalité, d'accord ? Mais c'est une production du cerveau qui fait ça, quoi. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ?
Qu'est-ce que ça change, tout ça ? Ça amène quelque chose ? Alors, ça met du relief, sûrement, dans ta vie, mais tu l'utilises pour quelque chose ?
Ce que dit la recherche sur le sujet, c'est que la plupart du temps, ou quasiment tout le temps, c'est tout à fait neutre. Alors, premier point, ça n'est pas pathologique, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir sur le plan psychopathologique avec les hallucinations.
Okay.
Les hallucinations sont des productions arbitraires du cerveau dans le sens où ça n'a pas de lien avec la réalité, alors que les synesthésies sont des productions toujours en phase avec une information réelle et capturée de la réalité, ou une pensée. Mais c'est bien quelque chose de sensé, au sens que ça a du sens, et ça n'est pas perturbant pour l'attention, parce que c'est la réalité. C'est juste la réalité avec un petit peu d'informations différentes dessus, quoi.
Peut-être, est-ce que ça a aidé à la mémorisation de la jeunesse, peut-être ?
Alors, là, encore une fois, la recherche montre que la synesthésie est souvent associée à une mémoire plus performante, un peu plus performante pour certains, voire extrêmement plus performante pour certains qui disent, comme Daniel Tammet par exemple, pouvoir apprendre 22 514 décimales du nombre pi, mais sans apprendre vraiment les chiffres, en fait, Daniel Tammet apprend une histoire colorée, ou plutôt il se promène mentalement dans un paysage coloré. Et donc 22 514 décimales du nombre pi, il n'y a pas de fréquence, il n'y a pas de période, donc rien ne se répète, il n'y a pas de repère dans les décimales de pi. Par contre, Daniel Tammet se promène dans un paysage de formes, d'architecture, de textures, de couleurs, et qui fait que lui, ça l'aide considérablement à retenir cette suite de chiffres. Il n'a pas le record du monde, mais c'est quand même un apprentissage remarquable. Donc oui, c'est associé à une meilleure mémoire, on va dire pour les cas les plus favorisés. Sinon, c'est l'essentiel du temps, c'est neutre en fait comme expérience, assez neutre.
petit peu intéressant. Ouais. Du coup, il y aurait 4% des gens qui écoutent ça qui pourraient se retrouver dans ce que tu dis.
À de façon assez sûre, il y a 4%, quand ouais. on circule dans la rue, il y a 4% de la population qui a l'une ou l'autre des synesthésies ouais. possibles, parfois plusieurs.
C'est conscient en général.
Alors, c'est le critère, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se projette, qui se projette dans la conscience de l'individu. C'est, alors, conscience, c'est, il faut préciser.
Conscient, moi je disais face à face à la non-chose. Genre moi je ne suis pas conscient d'avoir des choses supplémentaires ouais. qui se matérialisent devant les yeux. Mais peut-être je les ai, mais je n'en suis pas conscient.
Alors, mais je pense pas. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que probablement que le cerveau produit toujours des liens entre les différentes informations, mais que ça ne parvient pas à la conscience. Donc peut-être que ton cerveau, effectivement, est multimodal aussi, pour dire un autre gros mot. Mais que tu ne le vois pas parce que tu, pour une raison qu'on ne connaît pas, ton cerveau ne t'a pas rendu synesthète. C'est-à-dire le synesthète, c'est celui qui le voit, qui le perçoit consciemment. Okay. Pour autant, il faut préciser à la conscience, on peut être synesthète sans comprendre que c'est de la synesthésie. Et d'ailleurs, jusqu'à ce que quelqu'un vous dise que vous êtes synesthète,
justement.
C'est tellement anodin et pas perturbant qu'on ne se rend pas compte qu'on est différent des autres. Voilà. Donc c'est juste une condition, une expérience neurologique qui, pour l'essentiel du temps, est banale. Sans effet, et on la trouve un peu plus fréquemment présente chez les créateurs. Voilà, c'est quelque chose qui est montré maintenant statistiquement pour des raisons mal définies. Peut-être que c'est peut-être que l'esprit
architecture voilà. peut-être une plus grande architecture plus complexe est possible peut-être avec ça.
Ça fait partie des hypothèses. Peut-être que les compositeurs se retrouvent mieux dans leur composition parce qu'ils la visualisent. Ouais. Et que ça les aide mentalement à se représenter les notes de musique, les voix, les percussions, et du coup à les agencer un petit peu différemment, et que ça leur donne une appétence à le faire, et que du coup ils deviennent créateurs, d'où un biais statistique. Voilà. Mais la recherche est vraiment balbutiante sur ces sujets-là. Quoi.
Il y a d'autres sujets comme ça qui te... Bon, là c'est un sujet parce que tu le vis, hein. Tu es sujet de ça. Est-ce qu'il y a d'autres sujets que tu voudrais aborder là, qui te parlent et dont peut-être tu n'as pas l'opportunité sur les différents. Lieu où tu es invité de partager.
Excellente question. J'y avais pas réfléchi.
Alors, prends une minute pour réfléchir.
Ouais.
On a, en attendant, la communauté ou notre ami Martouf, Mathieu. Ouais, vas-y. Je la répéterai.
J'ai beaucoup entendu que tu disais le mot réalité. Toujours, c'est la réalité qui nous rattrape, c'est le récit qui est confirmé par la réalité. Et puis là, tu nous présentes la synesthésie dans laquelle, en fait, tu vis une réalité qui est différente des autres gens. Mais alors, qu'est-ce que la réalité ?
Oui, mais je disais pour la synesthésie qu'elle a valeur de réalité. C'est-à-dire que pour le sujet, elle est interprétée comme faisant partie, quand il en a conscience, en tout cas, ça fait partie des choses avec lesquelles il doit composer pour être adapté, quoi. Bon, comme quand tout un chacun écoute de la musique, ça fait partie des choses auxquelles il faut s'adapter. On aime ou on n'aime pas. Quand il y a de la musique trop forte dans un magasin, c'est désagréable, on doit s'adapter. Enfin, ça fait partie de la réalité telle qu'elle est perçue. Après, la réalité au sens d'absolu, j'en ai un tout petit peu parlé en disant que la méthode scientifique s'interdit de déclarer qu'elle a découvert la vérité. C'est son présupposé. C'est son, c'est sa discipline. Ma posture par rapport à la réalité, c'est qu'elle est, elle est toujours une reconstruction pour l'humain. Toujours. Toujours. On n'a jamais accès à la réalité brute. Donc c'est toujours une reconstruction. Et à partir de cette reconstruction, on s'écrit de quoi l'interpréter et s'adapter pour. Mais par exemple, pour reprendre le son, la musique, on a tous, qu'on soit synesthète ou pas, la certitude que les sons graves sont en bas et les sons aigus en haut. Ben ça, c'est une reconstruction parce que les fréquences, enfin, l'onde sonore, le front d'onde, circule autant en haut qu'en bas, que ce soit une fréquence haute ou une fréquence basse. Donc physiquement, le son est partout dans l'espace, qu'il soit grave ou aigu, mais notre cerveau reconstruit quelque chose de logique qui lui permette de mieux comprendre l'information. Et donc là, on a clairement une différence entre ce qui est la réalité physique, objectivable par des instruments, etc., et ce qu'on en reconstruit pour avoir une adaptation d'être vivant, d'animal. Donc, il faut partir de l'idée qu'on n'a jamais accès à la réalité brute, qu'on la reconstruit toujours, que la science permet d'avancer vers sa compréhension dans une certaine mesure, mais que la vérité ultime et l'ordonnancement complet et absolu de la réalité, on ne l'aura probablement jamais.
D'autres questions ? Vas-y, essaye de parler fort, du coup, parce que...
Ouais.
peut-être avoir ton avis sur...
Je vais pas répéter parce que je pense qu'on entendait, mais pas fort.
Avoir ton avis sur l'efficacité de la grève en termes de lutte, puis du blocage de l'économie, quoi.
Alors, tu me demandes la grève en général ou celle les multiples qu'on voit partout dans le monde en ce moment, ou la française, ou...
La grève en général, et peut-être en prenant l'exemple de celle
C'est la question du faux dilemme que j'évoquais tout à l'heure, c'est que les schémas de révolte ont des résultats positifs en fonction du contexte extérieur. Les révoltes du passé ont probablement eu plus de chances d'obtenir des résultats satisfaisants ou interprétés comme satisfaisants a posteriori, parce que le contexte global de croissance faisait que c'était beaucoup plus facile d'honorer les demandes des révoltes, quelles qu'elles soient, initialement. Voire, tout simplement, pour les faire taire, ou on donnait de l'argent, ou on faisait monter les peuples en classe, ou on satisfaisait les besoins des syndicats, parce qu'on en avait les moyens. Et les révoltes, les grèves, les manifestations en temps contraint, c'est beaucoup plus spéculatif de dire qu'elles vont déboucher sur une situation meilleure. Et donc je m'en tiens là pour l'instant. C'est-à-dire que je souhaiterais que les révoltes permettent d'obtenir gain de cause sur les revendications, mais il n'appartient ni aux révoltés ni aux gouvernants de décider de la disponibilité de l'énergie et des ressources pour honorer les demandes initiales. Et c'est ça que nous devons commencer à réintégrer dans nos pensées, à tous les niveaux de la société.
Ouais, c'était une bonne synthèse, ça. Comment tu te renseignes où est-ce que tu vas chercher toutes ces informations
Si je réponds Facebook, j'ai un gage ou
Ouais. T'as 3 points de plus.
Ah oui.
Non, c'est une question qu'on pose à chaque fois, en fait.
Ouais.
Pour essayer aussi peut-être d'orienter, mais de donner des idées à ceux qui écoutent simplement cette vidéo, cet audio podcast, pour savoir un petit peu les sources sur lesquelles nos invités se fondent et construisent leur narrative ou leur compréhension du monde.
Alors, je disais Facebook sur le ton de la plaisanterie. Malgré tout, ça reste sur le sujet de l'effondrement une de mes sources d'informations prioritaires, grâce en particulier au groupe Transition 2030 que j'ai créé en 2013, que je n'administre plus et que je ne modère plus pour des raisons d'objectivité et de neutralité que j'ai déjà évoquées tout à l'heure. Non, je ne sais plus, mais en tout cas, c'est le même contexte que pour Adrastia. J'ai tenu à ce que ces deux entités vivent indépendamment de mes travaux.
Donc, tu utilises un GAFAM?
Absolument.
Donc on est dans le même problème de cette jeunesse qui utilise son téléphone portable, iPhone.
Ah oui, iPhone. Mon discours n'est pas exempt de contradictions.
Oui, et nous non plus. Hein, chez The Swissbox Conversation, tu as remarqué qu'on utilise ces mêmes GAFAM et que pour l'instant, on n'a pas de solution d'émancipation, à court terme en tout cas, puisque Peertube ou autre qu'on a regardé, ne sont pour l'instant pas accessibles pour nous tout de suite et ne nous permettraient pas de toucher un dixième des gens. Alors, faudrait se mettre... Pourquoi on voudrait toucher les gens ? Ça, c'est aussi quelque chose pour qu'on réfléchir. Hein.
Bien sûr. Non, mais c'est un dilemme. Voilà, on a tous nos petites dissonances cognitives. Moi, j'ai la mienne à ce sujet-là. Mais je reconnais que... Alors, pour le coup, j'ai parfaitement conscience que les algorithmes de Facebook m'ont domestiqué. Et je suis très honnête en disant ça. J'ai développé une vraie dépendance et une addiction à ce réseau, en conscience que les notifications, je sens mon cœur qui bat et je sens que j'ai besoin d'y aller. Enfin, exactement comme les ingénieurs de l'attention, enfin de la capture de l'attention, l'ont planifié. Je le vois parfaitement fonctionner chez moi et je réfléchis à m'en éloigner, mais c'est pas facile parce que c'est une source d'information qui marche très bien pour moi. Et par ailleurs, historiquement, j'ai plutôt pas d'informations scientifiques à la base. Mes sources, c'est plutôt... ça va en faire plaisanter quelques-uns, en faire rire quelques-uns, mais c'est plutôt Gaston Lagaffe, Star Trek et Jean Giono. Voilà, mes sources initiales. Ça fait un grand écart qui m'a permis d'accéder à de multiples acceptions et interprétations de la réalité. Et plus tard, je me suis renseigné sur des aspects plus scientifiques, mais je suis d'abord passé par la psychologie. Ma formation initiale, c'est la psychologie clinique. Et une autre source d'information absolument cruciale, c'est la réalité aussi brute que possible. Donc j'ai toujours été quelqu'un qui faisait beaucoup de sport et qui passait beaucoup de temps dehors à bricoler et à faire des tas de choses manuelles. J'ai travaillé dans le bâtiment pendant 15 mois et pendant 5 ans en tant que gestionnaire d'agence, responsable d'agence dans le bâtiment, donc quelque chose de très ancré dans le réel. et dans la contrainte économique et dans le fonctionnement d'un système hiérarchique, de pouvoir, de commerce, de vente, enfin de tout ce qu'on veut, dans le bâtiment donc. Et puis, depuis 2010, on va dire, j'ai quitté 2009-2010, j'ai quitté mon activité, l'ensemble de mes activités pro pour me consacrer à une recherche beaucoup plus bibliographique intelligente, on va dire intellectuelle sur ces questions-là. Donc j'ai lu l'ensemble des livres qui m'ont permis d'avoir un discours, je l'espère, à peu près clair ce soir. Aujourd'hui.
Sur Internet, ça peut très bien être le soir, donc aucun problème.
Oui, voilà. Oui, mais voilà, donc mes sources sont vraiment les plus éclectiques possibles, okay. On va dire.
Mm-hmm. D'accord, très bien. Et puis, si on veut te trouver, où est-ce qu'on va chercher et qu'est-ce qu'on doit chercher ?
Si je réponds Facebook, j'ai un gage.
Encore une fois, trois points de plus.
Quelle est la question ? Parce que pour mon
compte... C'est-à-dire que tu as fait des travaux, tu m'as dit tout à l'heure que tu avais même écrit des livres. Est-ce que si on veut creuser encore, même si on a bien vu des choses ensemble, j'imagine néanmoins qu'il y a peut-être certaines personnes, et c'est aussi le but de ce genre de podcast, qui veulent tirer le sujet X ou Y qu'on a un petit peu élaboré plus loin, et en ce sens, j'imagine que tu as d'autres références, mais d'abord les tiennes, c'est en ça que je disais, où est-ce qu'on peut te trouver, toi et ton récit, en fait, et tes idées.
Très bien, et alors effectivement, j'ai un site internet tout simple, vincent-minureau.fr, sur lequel je diffuse la plupart de mes réflexions et des synthèses qui sont, je crois, assez accessibles, même si je manipule parfois des concepts un peu abstraits. Et dans un deuxième temps, j'ai publié des livres qui sont de toute façon disponibles sur ce site-là, donc très facile d'accès. Et je vais me permettre une promo collective,
vas-y,
si c'est possible.
Bien sûr.
J'ai contribué à un ouvrage collectif qui va sortir dans quelques semaines, là en mars, chez Albin Michel, un ouvrage qui a été coordonné par Laurent Hayet et Laurent Testo, et dans lequel on a 40 personnes qui sont des penseurs ou des activistes ou des acteurs de l'écologie et en particulier du risque d'effondrement. Ce livre s'appelle Collapsus. J'ai deux petits textes à l'intérieur.
Joli.
Et
Collapsus, excellent.
C'est un très bel ouvrage. Je n'ai pas tout lu encore parce que je n'y ai pas eu accès complètement. Mais l'aspect composite et complémentaire des différentes interventions est très, très prometteur et permettra de s'approprier justement le sujet de l'effondrement via un prisme beaucoup plus large que la collapsologie ou le survivalisme ou les grands dogmes ou les grands récits auxquels on a accès jusque-là.
Très bien. Et la dernière question qu'on pose en général, c'est quelle est ta plus grande source d'inspiration pour sortir avec
la musique.
L'inspiration. Et tu as des titres en particulier, quel type de musique ou alors toute musique ou de la musique sur Facebook, 3 points de plus.
Ah non, là, je n'allais pas répondre ça.
Non, quand même. La musique, c'est la deuxième fois qu'on nous dit la musique. La première fois, je crois que c'était le rap, c'était notre ami Daniel Curnier, effectivement. C'était un peu surprenant, mais ouais, c'est chouette. Et toi?
Et j'ai une histoire vraiment éclectique avec la musique. J'ai écouté autant du rap quand j'étais ado, de Public Enemy jusqu'au Wu-Tang, en passant par en même temps ABBA et du classique. Et puis aujourd'hui, je suis plutôt, je navigue entre l'électro pur et dur qu'on écoute la nuit jusque très tard, ou Radiohead et des musiques plutôt planantes. J'aime beaucoup me laisser m'endormir le soir avec des musiques calmes.
Et reposantes. Effectivement, donc un peu tous les styles.
Ouais.
Excellent. Vincent Minureau, c'était fascinant de t'entendre. Merci beaucoup du partage que tu as été d'accord de nous offrir et de venir jusqu'en Suisse. C'était pas rien pour toi, donc vraiment une gratitude sans limite. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi pour la suite. Et je te laisse le mot de la fin, du coup.
Merci à vous, parce que c'est très, très rare d'avoir des tribunes ou des moments de discussion longs et qui permettent de développer une pensée. C'est très rare. Donc merci pour ça. Merci beaucoup. J'ai probablement dit des choses que je n'avais pas encore dites à d'autres moments. Donc je vous remercie pour ça. Et je ferai le relais de cet entretien. Longue vie à The Swiss Box. Hein.
Tout le bonheur était pour nous. Merci beaucoup. Ciao, ciao. À bientôt. Merci.
Au revoir.